Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous, courage, c'est lundi mais on est ensemble jusqu'à 9h. Est-ce qu'on a échappé à un attentat ce week-end à Sarcelles? Un véhicule qui a été retrouvé avec des armes de guerre, dit le ministre de l'Intérieur, des armes de guerre dans cette commune du nord de Paris, connue pour abriter une forte communauté juive. Nous serons avec le spécialiste des questions de sécurité, Driss Saïd Youssef, dans 10 minutes. La menace terroriste est-elle toujours élevée? On fait le point donc dans 10 minutes. Et puis France-Espagne, demi-finale de la Coupe du Monde, c'est demain soir. Mais la polémique n'a pas attendu avec la sortie raciste d'un ancien Premier ministre espagnol qui dit de l'équipe de France eh bien, qu'elle ne compte pas de Français. Voilà. Il n'a rien compris à l'histoire de notre pays. C'est ce que nous dira notre historien maison, Arthur Chevalier. Ce sera dans 15 minutes. Tout ça vous fait réagir. Je vous attends bien sûr. Vous n'hésitez pas au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Et puis ça chauffe également dans le détroit d'Ormuz, fermé à nouveau, des frappes un peu partout dans les pays du Golfe. Eh bien, bien sûr, en Iran, à 8h30, mon invité, ce sera le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, donc, qui répondra à mes questions dans le face-à-face. Il est 6h59, dans un instant, le journal de 7h. Mais d'abord, la météo, Anthony Kaczmarek, la canicule qui se poursuit. Et ce sont toujours 37 départements qui sont en vigilance rouge.
Exactement, entre Pays de la Loire, Île-de-France, en redescendant vers le Limousin, 39 encore en orange. 8 départements bordant la Manche ont quitté la vigilance orange canicule ce matin, mais ça continue ailleurs et la nuit a encore été insupportable. 26 degrés encore actuellement du côté de Nantes ou d'Angers. Et cet après-midi, les températures vont rester extrêmement élevées, souvent entre 30 et 39 degrés. 39 prévus à Grenoble et à Auxerre, 37 à Dijon et à Nevers, 35 à Paris et Strasbourg, 32 pour Bordeaux, ça baisse un peu dans le sud-ouest, et 21 degrés très agréables à Cherbourg, avec toujours un risque d'incendie élevé sur la moitié nord et près de la Méditerranée, du soleil et peut-être quelques petites averses, voire quelques orages très isolé sur la moitié nord.
Excellent réveil à tous, c'est lundi, courage, on est ensemble, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Thibaut Texard. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des bombardiers d'eau en Île-de-France, du jamais vu. La forêt de Fontainebleau brûle toujours ce matin. 800 hectares partis en fumée. L'autoroute A6 est coupée. De fortes perturbations sont toujours en cours sur les lignes TGV de l'axe sud-est. Le parquet national antiterroriste saisi de l'enquête après la découverte d'un véhicule chargé d'armes à proximité d'une synagogue de Sarcelles. Et les Bleus, que l'on espère impitoyables, sont à Dallas, arrivés dans la nuit à la veille de leur demi-finale. Finale de Coupe du Monde face à l'Espagne.
Un feu d'une ampleur exceptionnelle.
La forêt de Fontainebleau en proie aux flammes. Déjà 800 hectares partis en fumée depuis hier. Laurent Nunez est attendu sur place dans la matinée au soutien de 400 soldats du feu mobilisés sur place, aidés par deux bombardiers d'eau venus du sud de la France. Une première dans la région, pas vraiment habituée à ce genre d'événement, obligeant les autorités à évacuer une quinzaine d'habitants d'Achères-la-Forêt.
L'épaisse fumée qu'on voit alors qu'on est à 10 km d'Achères, c'est vraiment impressionnant. Jamais dans la région, on a vu ça, jamais.
Des gendarmes passaient avec des haut-parleurs, les gens de la mairie, voilà, il y avait un petit peu tout le monde en fait qui demandait d'évacuer. Donc on a pris quelques affaires, des bouteilles d'eau et on est venu à la salle des fêtes de la mairie. J'essaye de rester calme, on est tous plutôt soudés pour que tout le monde reste quand même avec un peu de sang-froid parce que c'est vite contagieux sinon.
Et on va retrouver Romain Houg en direct de Noisy-sur-École ce matin. Vous êtes Romain aux côtés de pompiers qui, après une nuit de lutte contre les flammes, s'apprêtent à passer une nouvelle journée difficile, Romain.
Oui, c'est ça. Ici, la passation vient de se faire entre les pompiers qui ont travaillé toute la nuit sur le front de cet incendie et ceux qui vont prendre le relais ce matin pour à nouveau lutter contre les flammes qui ravagent depuis hier la forêt de Fontainebleau. Déjà près de 800 hectares partis en fumée. Des vols de reconnaissance sont en cours pour analyser le sens du feu, faire le point sur la surface brûlée. Des vols de reconnaissance qui sont d'ailleurs en cours en ce moment même au-dessus de moi puisque des hélicoptères de la sécurité civile patrouillent. En tout cas, ici, un peu plus tôt Bordeaux ce matin. À mesure que je m'approchais du centre de commandement des pompiers, l'odeur de feu, l'odeur de bois brûlé se faisait de plus en plus importante. Et puis le ciel bleu de samedi matin commençait lui à se teinter du gris des fumées qui se dégagent de cet incendie très important, incendie d'une ampleur exceptionnelle, nous disent les pompiers ici à Fontainebleau. Deux Canadair vont être mobilisés ce matin pour lutter contre les flammes. C'est une première en Ile-de-France et une première qui en succède en fait à une autre, puisqu'hier ce sont deux Dash qui déjà pour la première fois ont été mobilisés dans le ciel d'Ile-de-France pour tenter de lutter contre les flammes.
Romain Hougan en Seine-et-Marne ce matin en direct pour RMC. Des incendies qui perturbent le trafic routier. La 6 est toujours coupée dans les deux sens ce matin à hauteur de Fontainebleau et non loin de là passe la ligne ferroviaire Paris-Sud-Est. Les retards sont conséquents jusqu'à 9h pour certains trains. Arrivés tôt ce matin, un long voyage aussi pour ces passagers rencontrés hier soir, gare de Lyon à Paris.
J'arrive avec mes enfants de Grenoble. On a eu plus de 6h30 de retard. Il n'y a pas eu beaucoup d'informations. Les seules informations, c'était les notifications qui sont sur le téléphone. On a eu droit à une petite bouteille d'eau chacun. Il n'y avait pas à manger. Le wagon-bar, il a été dévalisé. Mais on est un peu fatigué quand même. Et puis un peu faim. Et puis, ouais, faut occuper les enfants pendant tout ce temps, quoi.
Ils nous ont aussi dit qu'ils allaient distribuer des plateaux repas qui ne sont jamais arrivés, bien évidemment. Ils nous ont aussi dit qu'ils n'étaient maîtres de rien, pas responsables.
Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu vu la situation parce qu'en fait, ils nous ont rerouté sur une ligne pas à grande vitesse. Ils ont fait ça avec les trains et du coup on avançait très lentement pendant 10 minutes, après on s'arrêtait un peu, on repartait. J'ai rarement eu autant de retard, mais je pense que le plus important c'est qu'il y ait la clim.
Et ce matin, les premiers trains au départ de la gare de Lyon sont impactés. Certains comptent déjà 2 heures de retard. D'autres feux sont toujours en cours dans le Maine-et-Loire. 300 hectares ont brûlé. Le feu n'est toujours pas fixé ce matin. À l'inverse des Pyrénées-Orientales ou encore du Lot, des incendies, principales inquiétudes en marge des festivités du 14 juillet et ces traditionnels feux d'artifice interdits dans une trentaine de départements. Ajoutez à cela la chaleur. Après avoir atteint le pic hier provoquant l'arrêt de 3 réacteurs nucléaires, les températures restent élevées ce lundi avec plus de 40 degrés attendus dans le centre du pays. 37 départements restent ce matin en vigilance rouge. Il est 7h04, vous écoutez RMC. Les efforts diplomatiques de ces derniers mois réduits à néant, c'est ce que dit Téhéran. De nouveau ciblé cette nuit par les États-Unis avec un flou autour du détroit d'Ormuz fermé, dit l'Iran, démenti par les États-Unis. Et la reprise du conflit marque le retour de la hausse des prix du pétrole. Le cours bondit de 3% avec déjà des conséquences à la pompe. 9 centimes de plus la semaine dernière ici en France. Mauvaise nouvelle en cette période de vacances scolaires. Reportage Charlotte Guerre dans le Var.
8h30 de route et 200 euros d'essence. Le trajet en voiture depuis Paris aura été plus coûteux que prévu pour Sandra.
Les pompes les moins chères, c'est 1,90. Ils ont dit qu'ils ont remis l'essence au prix normal, mais c'est pas prix normal, quoi.
Pas question pour autant de renier sur le budget des vacances.
On est là, on va profiter, puis après, c'est quand on va rentrer qu'on va serrer la ceinture.
Dans cette station-service, le litre d'essence monte à 2,12 €.
En pleine moto, 44,41, c'est du jamais vu.
Avec la reprise des tensions dans le détroit d'Ormuz, Giovanni s'adapte.
J'ai budgétisé. Par rapport à la reprise des hostilités, je ferai un ou deux restos de moins pour compenser.
Même son de cloche pour Najette, venue de Strasbourg avec sa fille et sa petite fille. Budget essence 300 euros pour celle qui a un petit salaire, comme elle le dit.
On va se restreindre et ça nous empêche de bien profiter de nos vacances et qu'on prend une fois par an. Les vacances, qu'on va en profiter en famille.
Et si le carburant pèse davantage dans le budget de ces vacanciers, pas question pour eux de délaisser leur véhicule au profit d'autres modes de transport qu'ils jugent moins pratiques et moins flexibles.
Le parquet antiterroriste saisit de l'enquête à Sarcelles après la découverte samedi soir d'un véhicule suspect à proximité d'une synagogue. Des armes ont été retrouvées à l'intérieur. Autant d'éléments qui laissent à penser, Pierre Bazin, qu'il pourrait s'agir d'un projet d'attentat visant la communauté juive.
Oui, c'est en tout cas une piste qu'étudient les enquêteurs, puisque samedi, vers 21h30, la DGSI, le renseignement intérieur, est destinataire d'une information selon laquelle il y a à Sarcelles un véhicule suspect stationné qui pourrait servir à une attaque terroriste islamiste visant une synagogue de la ville. À partir de la description du véhicule et d'une partie de sa plaque d'immatriculation, les policiers de la BAC retrouvent la voiture qui correspond au signalement à 500 mètres d'une synagogue. Les alentours sont immédiatement évacués, notamment un cinéma et plusieurs restaurants, 300 personnes mise à l'abri le temps que les démineurs interviennent. Lorsque les policiers ouvrent la voiture abandonnée, ils trouvent dans le coffre une arme semblable à une Kalachnikov ainsi qu'un pistolet. Une enquête a été ouverte pour association de malfaiteurs terroristes. À cette heure, aucun suspect n'a été interpellé.
7h07 sur RMC, les Bleus sont à Dallas.
RMC,
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Ils ont atterri dans la nuit à la veille de leur demi-finale. Demain, 21h face à l'Espagne. Premier gros déplacement aux États-Unis pour les Français qui jusqu'ici jouaient sur la côte Est. Dallas, c'est une autre ambiance. Changement de fuseau horaire, chaleur plus élevée. Mais toujours le soutien indéfectible à celui des supporters tricolores qui ont aussi fait le déplacement, Arthur Perrault.
Oui, il est 18h dans le centre-ville de Dallas lorsque les Bleus arrivent à leur hôtel. Une centaine de supporters sont là, ravis de les accueillir.
On est bien, on les a vus de très près, on était à 10 mètres. Hein. Ils sont arrivés, ils sont déjà concentrés, donc ça c'est cool. Et on les a attendus depuis une heure, donc ça y est, le match approche. Forcément on a hâte, parcours de ouf depuis le début, on arrive sûr de nos forces. Il faut qu'on assume et la compétition commence aujourd'hui pour moi.
Avant cette troisième demi-finale de Coupe du Monde consécutive pour les Bleus, chez les fans français déjà du voyage au précédent match, l'heure est à l'optimisme.
Par rapport à il y a deux ans à l'Euro, c'était très très compliqué déjà à vivre pour nous supporters. Là, on n'a jamais été aussi fort que cette année, donc on y croit fort.
Tellement fort que les supporters de l'équipe de France présents au Texas n'ont déjà qu'une seule chose en tête.
Et offrez-nous New York. Offrez-nous New York.
Pour Didier, c'est sa dernière, donc il faut lui offrir ça. Les joueurs et nous, on est là pour les supporter à fond.
Au Bleu désormais de transformer ce rêve d'une finale le 19 juillet prochain en réalité.
Avant la finale, il faudra battre l'Espagne, donc demain 21h sur RMC. On suivra aussi demain la deuxième étape de montagne sur la route du Tour, en attendant ces jours de repos pour le peloton ce lundi au lendemain d'une étape accidentée remportée par Mathieu Van Der Poel.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Un attentat déjoué à Sarcelles ce week-end. Point d'interrogation pour l'instant, mais de fortes suspicions. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a donné des précisions. Écoutez hier.
Un véhicule suspect effectivement a été identifié, retrouvé à proximité de la synagogue de Sarcelles. Nous avons retrouvé un véhicule dans lequel il y avait une arme. Les personnes ne sont pas encore identifiées, il y a une enquête en cours. Une nouvelle fois, les services de renseignement travaillent, sont à l'action.
Des armes de guerre, a précisé le ministre de l'Intérieur, et des armes chargées. Driss Ait Youssef sera avec nous dans un instant, spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme. Est-ce que la communauté juive était visée? Le parquet national terroriste, antiterroriste devra répondre à la question. Il s'est saisi de l'enquête. La menace terroriste reste à un niveau élevé en France. Voilà le parti pris de Driss Ait Youssef. Il le défend dans un instant à notre micro. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête après la découverte d'armes chargées dans un véhicule à Sarcelles au nord de Paris. Un fusil mitraillette, une sorte de Kalachnikov sans doute, un pistolet, plusieurs chargeurs retrouvés à proximité d'une synagogue. 300 personnes ont été évacuées et pas de suspect interpellé à ce stade. Il serait donc toujours en fuite. Bonjour Driss Ait Youssef.
Bonjour.
Vous êtes docteur en droit, spécialiste des questions de sécurité. La menace terroriste reste à un niveau très élevé en France. Voilà ce que vous nous dites ce matin. Mais d'abord, sur cet attentat peut-être déjoué, qu'est-ce qu'on en sait et qu'est-ce qu'il faut craindre?
Alors pour le moment, pas grand-chose. On sait simplement que c'est suite à une information, en tout cas une alerte de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui, rappelons-le, s'occupe des affaires de terrorisme particulièrement, qui signale effectivement la présence d'un véhicule suspect. Et donc à la suite de ce signalement, effectivement, cette découverte assez préoccupante. Donc la saisine tout naturellement du parquet national antiterroriste qui devra faire la lumière effectivement sur pourquoi ces armes dans ce véhicule et à quoi devaient servir ces armes découvertes.
Un véhicule suspect, la BAC qui intervient et qui découvre effectivement non seulement un arsenal d'armes, mais elles étaient chargées. On comprend donc qu'elles auraient pu servir de manière quasi immédiate. Et c'est la DGSI qui fait ce signalement. Elle signale le véhicule et non pas l'individu.
Non, elle signale un véhicule. Rappelons-le que la DGSI est chef de FILA en matière de lutte contre le terrorisme sur notre territoire. Donc l'information qui parvient à la DGSI n'est pas une simple information. Donc voilà, donc après évidemment...
Le parquet national antiterroriste qui se saisit, on sait qu'il est prudent, le parquet national antiterroriste, il ne se saisit que quand il a des éléments qui laissent à penser qu'il s'agit en effet de terrorisme.
Alors oui, puisque cette information, encore une fois, pardonnez-moi de le répéter encore une fois, mais elle remonte de la DGSI. Mais après, le parquet national antiterroriste, si elle considère que c'est par exemple une affaire de droit commun, elle peut parfaitement se dessaisir au profit d'une juridiction locale ou par exemple de la PNACO, le parquet national anticriminalité organisée, si d'aventure, effectivement, c'était une affaire de grand banditisme.
Sarcelles, Est-ce que ça peut être une cible particulière? On a quand même l'impression que régulièrement, Sarcelles revient sur le devant. Pourquoi? C'est un lieu où il y a une communauté juive particulièrement importante.
Alors vous avez raison de le souligner. Il y a malheureusement des antécédents en matière effectivement de signalements de violence et de troubles à caractère antisémite. Des élections municipales ont eu lieu il y a pas très longtemps. On a une communauté juive qui est probablement l'une des plus importantes en région Île-de-France qui vit à Sarcelles, et donc il y a évidemment une inquiétude, d'autant plus qu'il y a déjà eu des tentatives d'attentat dans un supermarché à Sarcelles, et donc il y a une vigilance toute particulière effectivement s'agissant de Sarcelles.
La menace terroriste, elle est toujours très élevée sur le territoire, on l'oublie presque.
Alors, on a tendance quelquefois à l'oublier. Alors, pas les services de renseignement et pas le parquet national antiterroriste. Je rappelle que depuis maintenant 2024, à peu près 17 ou 16 attentats ont été déjoués. Rien que sur l'année 2025, c'est 7 attentats qui ont été déjoués par les services de renseignement et par le parquet national antiterroriste, avec effectivement à chaque fois des auteurs de plus en plus jeunes, notamment par exemple dans le Nord, où deux mineurs ont été appréhendés alors qu'ils s'apprêtaient à commettre un attentat. Ça, c'était au mois de février, au mois de mars. On a encore la Bank of America qui a fait l'objet d'une tentative d'attentat. On a un autre tentative d'attentat à caractère antisémite au mois de mars, également déjoué par les services de renseignement. Donc on voit bien qu'effectivement la menace est toujours présente et elle est toujours inquiétante.
Terrorisme islamiste?
Alors, terroristes à la fois islamistes, on évoque de plus en plus aussi d'autres menaces de l'ultra-droite, de l'ultra-gauche, mais aujourd'hui la menace la plus préoccupante, il faut bien l'admettre, c'est cette menace islamiste. Je rappelle qu'également dans nos prisons, vous avez près de 400 ce qu'on appelle des TIS, des détenus condamnés pour des infractions à caractère terroriste islamiste. Vous avez aussi 400 détenus qui sont des détenus de droit commun et qui sont radicalisés dans nos prisons. Donc cela pose un problème particulier, sans évoquer aussi malheureusement tous ces individus qui sont fichés S et qui sont en liberté et qui pourraient quelquefois poser un problème pour l'ordre et la sécurité publique.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter aussi des propos iraniens? On a entendu notamment la question d'une vengeance immédiate. Alors certes, Donald Trump était visiblement sur les listes, mais pas que. Le Paris dit ce matin que la France est également visée par ces représailles d'une vengeance qui inéluctablement devra s'exprimer. Voilà ce que disent notamment les mollahs et les gardiens de la révolution iranienne. Est-ce que ça, c'est une nouvelle menace ou la résurgence d'une menace ancienne?
Non, c'est pas une nouvelle menace puisqu'elle existe déjà. On se souvient qu'à Villepinte, il y a quelques années, une tentative d'attentat a été déjouée. Derrière, effectivement, cette tentative, c'est le régime iranien qui était derrière. Bank of America, que j'ai eu l'occasion de citer il y a quelques instants, c'était en mars dernier. Évidemment, c'est derrière, il y a de forts soupçons sur des proxys des gardiens de la révolution. Ils ont recours quelquefois à des actions de déstabilisation sur notre territoire, comme des tentatives d'attentat. Donc c'est parfaitement connu des services de renseignement qui travaillent au niveau européen pour identifier les individus et justement pour essayer d'arrêter cette menace, mais elle n'est pas nouvelle.
Merci beaucoup, merci d'avoir fait le point avec nous ce matin. Driss Ait Youssef, je rappelle que vous êtes docteur en droit et spécialiste des questions de sécurité. La menace terroriste qui reste donc à ce niveau élevé. Et je vous le rappelle, cette voiture, ce véhicule dans lequel des armes de guerre chargées ont été découvertes à Sarcelles, et le suspect toujours en fuite, ou en tout cas personne interpellée. Il est 7h18 et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, l'ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy estime dans une tribune ce week-end que l'équipe de France, je cite, joue sans aucun Français. Il n'a rien compris à l'histoire de France, Arthur.
Mais oui, cette tribune raciste a été dénoncée des deux côtés des Pyrénées. La France est un pays métissé depuis des centaines d'années.
Et vous nous le dites dans un instant, ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes, 7h18.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h19, très bon réveil à tous si vous nous rejoignez. C'est l'heure surtout de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, dans une tribune publiée ce week-end, l'ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a déclaré que l'équipe de France, je cite, ne comptait aucun joueur français dans ses rangs. Une déclaration qui évidemment fait scandale.
Oui, évidemment, parce que c'est un sous-entendu raciste, une référence à la couleur des peaux des joueurs de l'équipe de France qui ne sont pas blancs. Une de trop, après les insultes de la députée paraguayenne à l'encontre de Kylian Mbappé il y a quelques jours. Et les propos de l'ancien Premier ministre espagnol ont fait réagir côté français. L'ambassade de France à Madrid a même fait un tweet où elle rappelle que, je cite, « tous les joueurs de l'équipe de France sont français.
Notre équipe de France est à l'image de l'histoire de France.
Absolument. Et dire que ne pas être blanc, c'est ne pas être français ou ne pas pouvoir représenter la France, eh bien, c'est ne rien connaître à notre histoire. Chez nous, des personnes de couleur exercent des responsabilités, y compris politiques, depuis très longtemps. Exemple, le premier député noir a été élu sous la Révolution française en 1793. Donc il y a plus de 200 ans, il s'appelait Jean-Baptiste Bellé, c'était un ancien esclave originaire du Sénégal et il était député de Saint-Domingue. C'était ce qu'on appelle un libre de couleur. Alors qu'est-ce que c'est un libre de couleur ? Eh bien c'était un statut pour les Noirs qui n'étaient pas esclaves.
On n'a pas toujours été exemplaires quand même.
Alors disons-le clairement, la réponse est non. La France a pratiqué l'esclavage pendant longtemps. Il y a aussi eu des lois racistes. Tout n'était pas idéal, hein, loin de là. Il y a d'ailleurs encore du racisme. Mais notre histoire est aussi faite de figures qui ne sont pas blanches. Regardez le père de l'écrivain Alexandre Dumas. Eh bien, c'était un très grand général de Napoléon Bonaparte. Il a participé notamment à la campagne d'Égypte. Et d'ailleurs, sous Napoléon, il y avait un régiment de soldats noirs qui était basé en Italie. Et je ne parle même pas des troupes coloniales qui ont combattu pour la France pendant les deux guerres mondiales.
Paris a même eu un maire de couleur noire et c'était il y a plus d'un siècle.
Oui, et d'ailleurs c'est le seul maire noir de Paris à ce jour. C'était en 1879. Il s'appelait Severiano de Heredia. Il était d'origine cubaine. Alors à l'époque, il n'y a pas de titre de maire. Hein, donc il était président du conseil municipal, mais ça revient au même. Heredia a aussi été député, ministre. Tout ça au 19e siècle.
Revenons au foot. Depuis quand y a-t-il des joueurs de couleur en équipe de France ?
Alors, le premier joueur noir en équipe de France, c'était Raoul Diane. Sa première sélection, ça date de 1931. Il était d'origine africaine, né en Guyane. Et son père, eh bien, c'était un député français de la 3e République, donc un fils de député. Donc vous voyez, ça fait longtemps que l'équipe de France est à l'image de son pays, c'est-à-dire français sans distinction d'origine ni de couleur de peau.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin qui chaque jour pour nous remonte le temps. Il est 7h21 et on va tout de suite partir dans la région de Fontainebleau, là où ça brûle. On part en forêt de Fontainebleau, aux portes de Paris. Cet incendie qui s'est déclaré hier en fin de journée, il continue de progresser au moment où l'on se parle. Au moins 800 hectares ont été brûlés. Vanessa Piel est en direct avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la maire d'Achères-la-Forêt. Le feu brûle toujours aux portes de votre commune, madame ?
Oui, oui, tout à fait. Toute la lisière boisée du village voilà, est pris par les flammes là aujourd'hui. Oui.
Vous avez dû évacuer un certain nombre d'habitants ?
Oui, on a évacué 200 foyers, ce qui correspond à peu près à 400 personnes. On a ouvert le plan de sauvegarde de communal de sauvegarde, les salles des fêtes. On a accueilli les gens, ceux qui pouvaient pas aller ailleurs. Mais il y a eu aussi beaucoup de solidarité de la part des autres personnes du village ou de la famille des villages alentours. Et voilà. Donc, mais il y a quand même beaucoup de personnes. Et on a accueilli aussi dans notre salle les gens des communes voisines qui sont impactés aussi et évacués.
Plusieurs communes voisines effectivement impactées, un feu dont on comprend que pour l'instant il n'est pas maîtrisé, c'est bien ce que vous nous dites aussi ?
Oui, il y a de l'amélioration, hein, ça va mieux, mais le problème c'est la tourbe, hein, on est en forêt de Fontainebleau, donc ça couve au sol, et puis les vents qui ne nous sont pas favorables et qui peuvent à tout moment faire repartir le feu de façon exponentielle.
Alors il y a ensuite un certain nombre de voies de communication qui sont coupées, est-ce que vous nous confirmez que l'A6 est toujours coupée ce matin ?
Oui. Toujours coupé, enfin par portion, mais oui, pour l'instant oui, parce qu'on a aussi sur le village deux stations de chaque part de l'autoroute, donc oui, ça s'est coupé. Toujours,
la
oui.
Seule bonne nouvelle peut-être ce matin, c'est que les TGV, la ligne ferroviaire qui était à l'arrêt, on l'apprend à l'instant, reprend, c'est-à-dire qu'il y a quand même certaines portions où les choses s'améliorent.
Alors nous, le TGV, c'est loin de chez nous. Hein.
Par précaution, il avait aussi été coupé pour ne pas effectivement traverser le coin.
Hein. Oui, puis il y a eu d'autres feux un peu plus loin et c'est pour ça que la ligne TGV avait été coupée. Mais c'est une trentaine de kilomètres d'ici.
Est-ce que vous imaginez, vous espérez un scénario de retour à la normale ? Qu'est-ce que vous dites à vos habitants ?
On les rassure, hein. On essaie de dire que, il y a une solidarité entre pompiers de toute la France. Là, on a des pompiers de Strasbourg, de la Somme, de Marseille qui viennent et vraiment, on a beaucoup de renforts. Donc, il faut que les choses se passent, il faut que les gens soient patients, ils sont inquiets parce que, on sait pas comment on va retrouver la maison, dans quel état, si elle aura brûlé ou pas. Enfin, voilà. Donc, on les rassure, on est présent, on communique beaucoup sur les nouvelles informations que moi j'ai vraiment très très, presque en direct de la part des pompiers qui communiquent beaucoup avec les élus et ça c'est très appréciable.
Merci beaucoup. Un mot encore de votre mémoire ou de la mémoire des habitants. Ce qu'on dit, c'est qu'un feu de cette ampleur en région parisienne, c'est quasiment du jamais vu.
Oui, oui, les pompiers m'ont confirmé. Là, dans cette zone-là, en tout cas, on a eu déjà des feux, hein, des feux d'ampleur. Mais de cette ampleur-là, non, jamais.
Bon courage à vous et merci d'avoir pris le temps d'être en direct avec nous, Vanessa Piel. Vanessa Piel, vous êtes donc la maire d'Achères-la-Forêt en bordure de ce feu qui a donc déjà englouti 800 hectares brûlés et c'est toujours 400 pompiers qui sont mobilisés devant un feu qui n'est toujours pas maîtrisé. Il est 7h25 sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal. Et juste après, on reviendra notamment sur ces deux adolescents soupçonnés de meurtre qui ont été remis en liberté à cause d'un vide juridique. La famille de la victime crie au scandale. Le porte-parole du ministère de la Justice viendra s'expliquer ou tenter de s'expliquer. Il sera mon invité à 7h40 face à cette nouvelle faille de la justice. Il est 7h26 sur RMC. À tout de suite. Il est presque 7h30 et du côté de la météo, Anthony, ça continue à être une partie du pays en alerte rouge, même si on va vers une amélioration.
Exactement, 37 départements toujours en vigilance rouge, mais plus que 39 en orange. Ce sont les 8 départements qui bordent les côtes de la Manche qui ont été retirés de cette alerte orange, du Finistère jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Mais les températures sont toujours très élevées quasiment partout ce matin, avec des pointes à 26 degrés entre Nantes et Angers notamment, 24 degrés pour l'instant au plus frais de la nuit à Paris. Et cet après-midi, on sera encore quasiment partout entre 30 et 40 degrés. 39 degrés prévus à Grenoble et à Auxerre, 38 à Lyon et à Clermont-Ferrand, 35 degrés pour Paris, Strasbourg et Marseille. Ça baisse un peu à l'ouest, 32 pour Bordeaux, c'est 7 de moins qu'hier, 30 à Abbeville, 21 degrés à Cherbourg. Et dans le ciel, souvent du soleil, mais déjà quelques petites averses ce matin, voire un petit coup de tonnerre sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Et on va retrouver ce tout petit risque d'averses, voire d'orage sur toute la moitié nord cet après-midi. Orages qui seront donc très isolés. Si vous n'en avez pas, vous aurez du soleil. Un soleil qui sera toujours aussi présent au sud avec juste un voile nuageux, quelques plaques de grisaille vers le Languedoc-Roussillon et toujours ce vent qui souffle quasiment partout. Un vent qui assèche les sols et qui évidemment augmente le risque de feux de forêt.
C'était la météo, il est 7h29 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un incendie d'une ampleur exceptionnelle dans la forêt de Fontainebleau. 800 hectares brûlés depuis hier, d'importants moyens déployés et des trains immobilisés retardés en gare de Lyon. Le nucléaire français sous pression face aux fortes chaleurs, plusieurs réacteurs à l'arrêt ou au ralenti. Et bientôt un mondial XXL. La FIFA veut voir plus grand, passer de 48 à 64 équipes lors de la prochaine Coupe du Monde.
Jusqu'à 9 heures de retard pour les TGV Sud-Est.
Des milliers de passagers partis hier ont passé la nuit dans leur train bloqué en race campagne. Conséquence d'un incendie hors norme qui s'est déclaré hier en Seine-et-Marne. 800 hectares brûlés en forêt de Fontainebleau. La SNCF indique ce matin un retour à la normale sur la ligne TGV Sud-Est. Et justement, Pierre Bazin, vous êtes en direct de la gare de Lyon à Paris et vous constatez toujours de fortes perturbations.
Oui, ici c'est la grande pagaille. Partout autour de nous, des centaines de voyageurs qui attendent, allongés sur le sol, assis sur leurs valises, les yeux rivés sur des tableaux d'affichage que tous les trains au départ de la gare de Lyon sont retardés. 1h40 pour les voyageurs en direction de Grenoble, 1h20 pour ceux qui vont à Avignon par exemple. Sur les différents parvis de la gare, pris d'assaut par des voyageurs en quête d'un peu de fraîcheur, on a même croisé des touristes qui ont passé la nuit dans la gare. Leur train hier soir a été annulé en raison déjà de l'incendie et ce matin, ils ne savent pas s'ils pourront partir. Le manque d'informations, il est justement déploré par tous les voyageurs qu'on a croisés. Les guichets de la SNCF sont tous pris d'assaut. Ceux qui n'ont pas pu monter dans leur train en cherchent un nouveau pour partir, mais ils sont bien souvent complets. Il faudra donc du temps, beaucoup de temps, pour que la gare se vide de ces centaines de naufragés.
Bazin, en direct de la gare de Lyon pour RMC. Autre conséquence de cet incendie, l'autoroute A6 est fermée à la circulation entre Soisy-l'École et Nemours. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, lui, est attendu ce matin sur place, lieu où actuellement plus de 400 pompiers sont mobilisés pour éteindre cet incendie, épaulés pour la première fois en région parisienne par des avions bombardiers. Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
C'est le monde à l'envers. Hein. Pour la première fois de l'histoire, on fait appel à des renforts aériens de type Dash, ces moyens aériens qui permettent de larguer du retardant en amont du sinistre pour essayer de ralentir la progression du feu. Aujourd'hui, nous sommes en lutte sur des territoires qui ne sont pas coutumiers du fait des incendies d'espace naturel. Donc, encore une fois, on doit faire preuve d'adaptation. Ça doit aussi nous poser énormément de questions sur l'avenir en termes de lutte contre les incendies de forêt sur l'ensemble du territoire national, à savoir comment faire face à tout cela.
Et deux Canadairs sont attendus sur place ce matin. Et la chaleur, mais aussi à l'épreuve, le réseau électrique face à des fleuves devenus trop chauds. EDF a dû arrêter 3 réacteurs nucléaires et réduire la puissance de 8 autres pour protéger les écosystèmes. En parallèle, l'État prend des mesures exceptionnelles pour sécuriser l'alimentation électrique. De quoi poser des questions sur notre approvisionnement en électricité, Victor Gérard?
C'est pour respecter les limites réglementaires d'échauffement des cours d'eau qu'EDF est contraint d'adapter, voire de stopper la production de ses centrales. Les centrales qui prélèvent de l'eau en permanence et la rejettent ensuite plus chaude dans les fleuves. Mais pas d'inquiétude sur nos besoins en électricité à court terme, assure Patrice Geoffron, spécialiste des questions énergétiques.
On est dans une surproduction d'électricité. Nous consommons beaucoup moins que l'hiver. En revanche, nous allons connaître des périodes de canicule plus intenses et nous allons consommer plus d'électricité. Donc évidemment, on pourrait se retrouver dans les 5 à 10 ans à venir avec plus de tensions que ça n'est le cas à l'heure actuelle.
D'autant qu'EDF a dû obtenir une dérogation de la part du gouvernement qui l'autorise a dépassé exceptionnellement jusqu'à lundi prochain les seuils réglementaires de rejet d'eau chaude dans le Rhône pour la centrale du Bugey située dans l'Ain.
C'est quelque chose d'inquiétant,
déplore Jean-François Julliard, directeur général de France Nature Environnement.
Tout échauffement d'un fleuve a des conséquences sur la biodiversité marine. Ça va contribuer à augmenter la mortalité. C'est un vrai problème. S'il y a eu une dérogation aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y en aura d'autres demain.
Une telle dérogation avait déjà été accordée à l'été 2022. L'autorité de sûreté nucléaire estime que le retour d'expérience environnementale rend acceptable cette nouvelle demande d'EDF.
Et une rêve partie illégale dans le Morbihan. 2000 fêtards toujours rassemblés depuis vendredi. Le préfet Michel Galli dénonce l'irresponsabilité des organisateurs en cette période de forte chaleur. Selon lui, il est impossible de les déloger. Il nous explique pourquoi.
Nous avons étudié la possibilité de recourir à une évacuation au moyen de la force publique, mais nous avons considéré que les risques incendie étaient trop élevés. Lorsque les gendarmes interviennent sur ce type d'évacuation, ils sont confrontés à des tirs de mortier d'artifice de la part des organisateurs de l'événement. Du tir de mortier d'artifice, dans ce contexte-là, fait courir un risque quasiment certain de propagation d'un incendie. Nous avons une stratégie de présence, de sécurisation du site et de verbalisation de l'ensemble des participants, donc nous resterons le temps nécessaire pour verbaliser jusqu'au dernier départ, et puis de saisie du matériel de son.
De nouvelles frappes américaines sur l'Iran, objectif empêcher Téhéran d'attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz, dont les gardiens de la révolution avaient annoncé plutôt à la fermeture. L'Iran réplique en frappant des bases américaines en Jordanie ou encore au Koweït. RMC 7h34, la Coupe du Monde pourrait encore changer de dimension. Après le passage à 48 équipes cette année, la FIFA envisage un mondial à 64 nations dès 2030. Un projet porté par Gianni Infantino, mais qui provoque de vives critiques, Morgane Maury.
À peine 48 équipes et déjà 64 dans 4 ans, oui, c'est bien possible. Dans une interview à la télé suisse, Gianni Infantino, le patron de la FIFA, a indiqué que l'instance allait plancher sur le sujet dès la fin de la Coupe du Monde. L'Amérique du Sud et surtout l'Afrique poussent pour faire gonfler le nombre d'équipes. La Coupe du Monde appartient à tout le monde et pas seulement à l'Europe, voilà le discours d'Infantino. En interne, une majorité d'élus sont contre. Une telle réforme ne pourra pas se faire sans l'aval de l'UEFA, la Confédération Européenne. Pour l'instant, celle-ci est farouchement opposée à cette inflation. À un an des élections où il briguera un nouveau mandat, Infantino tient là un ballon d'essai. S'il réussit à faire voter le passage à 64, bingo. S'il rate, pas grave, il aura contenté ses partisans en essayant. 16 équipes de plus, cela signifie 4 groupes supplémentaires, plus de matchs et donc une Coupe du Monde encore plus longue. Celle-ci venait tout juste d'être allongée.
Et la victoire hier au sprint de Van der Poel lors de la 9e étape du Tour de France. Pas de changement au classement général. Pogacar est toujours en jaune. Jour de repos aujourd'hui sur la grande boucle.
Et puis les courses, le quintet, c'est sur l'hippodrome de Dieppe aujourd'hui, 18h30.
Et le pronostic de Mathieu Zaccanini, sa favorite est le 9 National Service. Son outsider est le 12 Mellow Yellow.
C'était le journal de Clément Guézi, les 7h36 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h36, et ce sont ces messages que vous nous envoyez, qu'on va vous lire dans un instant. Ces messages notamment de réaction après les propos de l'ancien Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, des propos racistes contre l'équipe de France, dont il dit qu'elle ne compte aucun joueur français.
Et ça ulcère. Nina, qui nous a envoyé son message sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Nina nous écrit, les attaques racistes contre l'équipe de France sont des attaques faciles, met-elle entre guillemets, des attaques de petits, des attaques de ceux qui sont tellement vexés de se faire écraser par notre grande équipe. La bêtise n'a pas de frontières, écrit Nina. Laissons-les dans leur médiocrité et surtout dans leur défaite. Ça a aussi fait vivement réagir Alicia, qui pointe justement la sélection espagnole et la composition de ses joueurs. Elle nous dit, mais surtout pas oublier de regarder chez soi avant de critiquer. Le défenseur espagnol Emeric Laporte, eh bien, il n'est pas forcément espagnol, ou en tout cas, il est aussi français, et pourtant, il a choisi de jouer pour l'Espagne. Vous continuez de nous envoyer vos messages sur le WhatsApp.
Et vos messages sur le WhatsApp également, sans doute vos réactions à ce que vous allez entendre dans un instant. Tiens, écoutez.
Pour moi, c'est un réel naufrage, c'est un scandale, et je pense qu'il faut un sursaut, et vite, pour que le nouveau texte soit adopté.
La personne que vous entendez, c'est l'avocate de la maman de Chem Sidine. Chem Sidine, c'est ce garçon de 15 ans qui avait été battu à mort en avril 2024 à la sortie de son collège. Les deux mineurs, à l'époque des faits soupçonnés de l'avoir tué, ont été remis en liberté dans le cadre d'un vide juridique. Bonjour Sacha Stropskan.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le porte-parole du ministère de la Justice. Qu'allez-vous répondre à la maman de cet adolescent tué? Vous nous le dites dans un instant. Et vous, n'hésitez pas aussi à nous appeler au 3216. Il est 7h38 sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h39 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story des mineurs libérés dans le cadre d'un vide juridique. Bonjour Sacha Stropskan. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes le porte-parole du ministère de la Justice. Les deux assassins présumés du jeune Chem Sidine ont été libérés dans le cadre d'une faille dans la loi. Cet adolescent de 15 ans, il avait été roué de coups à la sortie de son collège. C'était en avril 2024. Depuis, leur procès n'a toujours pas eu lieu. Et ils sont donc libres. Leur libération a d'ailleurs été filmée et jetée sur les réseaux sociaux comme une sorte de trophée par leurs copains qui les attendaient à la sortie de la prison. En tant que porte-parole du ministère de la Justice, honnêtement, comment vous pouvez ne pas avoir honte ce matin ?
De fait, c'est une situation dramatique. Personne ne le contexte. Après, il y a deux sujets. Vous avez le sujet global de ce vide juridique qui a été effectivement créé par cette censure du Conseil constitutionnel. Puis vous avez le cas d'espèce que vous évoquez, où malheureusement, même si la loi avait été prise dans les temps, c'est-à-dire avant le 1er juillet 2026, en vérité, probablement que la libération de ces deux jeunes n'aurait pas pu être empêchée, puisque ce qu'a dit la Cour d'appel dans ce cas précis ne relève pas en fait de ce vide juridique. Relève du fait que c'est un peu technique et j'en suis désolé pour vos auditeurs. Mais
non, mais moi je voudrais comprendre. Qu'est-ce qui peut justifier aux yeux de la justice deux meurtriers présumés d'un autre jeune qu'ils ont tabassé à mort à la sortie de son collège parce qu'il avait des liens avec leur sœur, cette histoire monstrueuse, que ces deux jeunes puissent sortir comme ça, comme triomphants?
Très clairement, c'est une erreur de droit. C'est-à-dire qu'il y a un an, le Conseil constitutionnel dit que pour maintenir des mineurs en détention, il faut une ordonnance séparée, c'est-à-dire une ordonnance de maintien en détention, et que le juge d'instruction, dans cette procédure, n'a pas pris une ordonnance séparée pour les maintenir
en
détention.
Ça fait beaucoup d'erreurs quand même, non ?
Je ne peux que le constater, d'autant plus qu'effectivement c'est un dossier dramatique, mais là, pour le coup, dans ce dossier précis, on pourra parler ensuite du vide juridique qui a été laissé par la censure du Conseil constitutionnel.
J'ai envie de vous dire, c'est presque pire, parce qu'il y a le vide juridique. Bon, ça, on a bien compris qu'il y avait eu un raté dans la transposition ensuite du droit, ou l'adaptation du droit, on va y revenir en effet. Et puis il y a des erreurs. La semaine dernière, c'était à Rouen, où un meurtrier violeur présumé a été libéré par erreur, dans le cadre aussi de ce vide juridique, mais sans que ce soit en lien direct.
C'était un majeur, alors que le vide juridique ne concerne que des mineurs.
Et puis là, ils se sont trompés. Ils ont mal lu, visiblement, la date de naissance. Et puis ces deux adolescents, donc au moment des faits et du meurtre de Chem Sidine, je voudrais quand même que vous écoutiez les mots de maître Pauline Rago. C'est l'avocate de la mère de Chem Sidine. Et elle raconte la douleur de la maman à l'annonce, donc, de la libération de ces deux meurtriers présumés.
C'est une mère aujourd'hui qui est effondrée. Elle ne dort pas depuis la remise en liberté de ces deux individus qui ont tué son enfant dans des conditions particulièrement abominables. C'est une mère qui a peur. On aurait pu l'imaginer quand même, pour des faits de cette gravité, une mise sous bracelet électronique, au moins dans leur contrôle judiciaire, voyez, une obligation de pointage, par exemple, ou tout simplement d'interdiction de contact avec la famille de Chemseddine.
Parce que pour ajouter à la folie de ce qu'on est en train de raconter, non seulement ils ont été libérés, mais le contrôle judiciaire est extrêmement léger. Ils n'ont pas à pointer tous les jours et ils n'ont pas d'interdiction de rentrer en contact avec la famille de celui qu'ils ont tué.
Alors, sur la décision de contrôle judiciaire, moi, je peux pas la commenter en tant que porte-parole de la chancellerie. C'est une décision de magistrat indépendant. Une chose est sûre, c'est que les instructions, par contre, qui ont été passées de façon générale dans le cadre de ces libérations éventuelles de mineurs, c'est qu'en gros, les parquets soient extrêmement attentifs au respect des contrôles judiciaires, c'est-à-dire, pour dire les choses simplement, hein, qu'on les suive à la culotte et qu'en cas de n'importe quel manquement à ce contrôle judiciaire, le parquet demande leur replacement en détention provisoire.
Mais là, il y a quasiment pas de contrôle judiciaire.
C'est une décision juridictionnelle de trois magistrats de la Chambre de l'instruction.
Mais est-ce qu'il y a un problème avec les magistrats en France ?
Ça, pour le coup, moi, en tant que porte-parole de la chancellerie, je pense qu'heureusement que non. Après, qu'il y ait des décisions qui interrogent nos concitoyens, c'est une évidence. Qu'il y ait une rupture de confiance, comme on a pu le voir ces dernières semaines dans un tout autre contexte, c'est une évidence également. Que cette institution doive se remettre en cause pour essayer de retisser ce lien de confiance avec nos concitoyens, c'est une évidence également.
Rouen, je le disais, un jeune majeur accusé de deux tentatives de meurtre, remis en liberté, pour le coup, en référence à l'idée que les mineurs peuvent être... Enfin, il n'y a rien qui va, en fait, dans cette histoire.
Non, effectivement, vous avez rien qui va dans cette histoire, parce que, et une fois de plus, je pense que ce qui est important, c'est que malheureusement, ces erreurs viennent dans un contexte où il y a déjà un sentiment de défiance très fort envers l'institution judiciaire qui a été exacerbé ces dernières semaines dans le contexte
de l'affaire Liana,
que tout le monde connaît, et que du coup, effectivement, ce n'est pas de nature à réconcilier ou retisser un lien de confiance entre nos concitoyens et l'institution
judiciaire. Quand vous voyez, Sacha Stropskan, sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, ces deux jeunes meurtriers présumés qui sortent triomphants de la prison, qui sont accueillis par leurs copains. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que la société aujourd'hui ait le sentiment que les meurtriers présumés, que l'ultra-violence des jeunes est véritablement prise au sérieux ?
Alors, je pense qu'il y a deux sujets. Je pense que le premier sujet, dans le cas d'espèce, est quand même de rappeler que, quelle que soit leur situation en attente de leur procès, un jour, ces deux jeunes, ils vont être jugés. Et que ce qu'ils semblent oublier, peut-être de par leur jeunesse, sans leur trouver d'excuses, mais ce qu'ils semblent oublier, c'est que quand on est jugé pour des faits, mais on est aussi jugé sur sa personnalité. Et que je ne suis pas sûr que le jour où ils comparaîtront devant une cour d'assises pour mineurs, dans un délai assez rapproché, ça soit du meilleur effet, effectivement, que de ne pas laisser entrevoir le commencement du début d'une forme de regret ou de contrition par rapport aux faits qu'on a commis. Et donc, je pense, pour rassurer peut-être vos concitoyens, sans préjuger de la décision qui sera rendue, puisque pour l'instant, ils sont présumés innocents, qu'en tout cas, ça ne mettra pas dans les meilleures dispositions la cour d'assises des mineurs, pour dire les choses simplement.
Le Conseil constitutionnel avait donc censuré en juin 2025 une disposition du Code de la justice pénale des mineurs, et vous aviez un an pour mettre la loi en conformité avec cette décision du Conseil constitutionnel. Ça n'a pas été fait dans les temps. Comment c'est possible ?
Alors, vous avez objectivement une lenteur manifeste dans cette histoire.
Mais de qui ? Enfin, est-ce qu'à un moment, quelqu'un va prendre ses responsabilités ?
Puisque dans sa sagesse, le Conseil constitutionnel nous avait laissé un an pour prendre de nouvelles dispositions avant l'application de la censure. En gros, dès que on a été informé de la situation, c'est-à-dire concrètement le ministre, on a trouvé un vecteur législatif dans l'urgence, qui était donc cette fameuse loi qui a été adoptée.
Mais vous avez été alerté quand ?
Il y a quelques semaines, pour être honnête.
Mais pourquoi vous n'avez pas été alerté
Ça, pour le coup...
Ça date de juin 2025,
oui,
cette décision.
Oui, tout à fait. Le sujet, honnêtement, prioritaire pour nous, c'était maintenant de trouver un vecteur législatif pour que le vide juridique soit le plus court possible.
Mais votre priorité, elle s'est faite un an après ?
Et ensuite, il y aura un sujet des responsabilités. Maintenant, notre poids de corps, pour dire les choses concrètement, il a été mis ces dernières semaines sur trouver un vecteur législatif, le faire adopter.
Mais à l'arrache, je veux dire, à une semaine de la fin du délai, quoi, du chrono.
De fait, c'est la situation devant laquelle on se
trouve. Je n'ai toujours pas de réponse. Qui, à un moment, ça veut dire que pendant un an, personne ne vous a appelé et vous a dit... on a un an pour se mettre en conformité. Ils vous ont appelé une semaine avant.
Il y aura une question de responsabilité qui se posera. Maintenant, c'est juste que la priorité, et je pense que ça, tout le monde peut le comprendre, elle a été mise sur trouver une solution à cette difficulté. La solution, on l'a trouvée, puisqu'on a réussi à l'intégrer dans un texte comporté.
Mais quand est-ce que ce sera appliqué ?
En gros, vous avez un texte qui a été définitivement adopté début de semaine dernière. Vous avez maintenant le Conseil constitutionnel qui a été saisi par des parlementaires, notamment des parlementaires LFI, qui va devoir se prononcer dans l'urgence, comme c'est possible. En gros, il a 10 jours pour se prononcer. Donc, on espère que d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, la loi puisse être promulguée et elle sera applicable immédiatement. Donc, ce qui fera un vide au total de 3 semaines.
Une question, après le fiasco de l'affaire Liana, Gérald Darmanin avait annoncé le réexamen de 70 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. On en est où ?
Alors, il avait annoncé comme deadline le 14 juillet. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le 14 juillet est une journée un peu particulière et qu'elle est réservée notamment au président de la République et puis à un tout autre sujet. Mais ensuite, effectivement, une fois cette date passée, vous aurez les revues avec tous les procureurs généraux de ce pays, les 36 procureurs généraux. Et puis ensuite, on communiquera au fur et à mesure sur les bilans de ces...
Mais vous avez réussi en tout cas à les examiner. Moi, je ne vous demande pas ensuite ce que vous avez trouvé, mais est-ce que vous avez réussi ?
Tout à fait.
Est-ce que tous les parquets de France ont réussi à réexaminer ces 70 000 plaintes ?
Tout à fait. L'objectif qui avait été fixé par le garde des Sceaux sera atteint, et c'est même pas 70 000, au final c'est 88 000 comme on l'a annoncé, plaintes qui ont été passées en revue pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres affaires Liana plutôt Rosa parmi ces dossiers.
Merci beaucoup Sacha Sobskan d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes donc le porte-parole du ministère de la Justice. Il est 7h49 sur RMC et RMC Story. On part au 32-16. Thomas qui nous appelle des Bouches-du-Rhône à Vitrolles. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour.
Thomas, vous vouliez réagir à la fois au propos de Mariano Rajoy, l'ancien Premier ministre espagnol, qui dit de l'équipe de France qu'elle ne compte, je cite, aucun joueur français, et Arthur Chevalier qui nous remontait le temps tout à l'heure pour nous parler aussi de la manière dont la France avait justement vécu de métissage. Thomas.
Ah ben oui, ben écoutez, pour moi c'est de belles conneries ce qu'il a dit, ce monsieur-là.
Lequel l'ancien premier ministre espagnol.
Oui, exactement. Alors, moi je pense qu'il fait tout ça justement pour essayer de nous déstabiliser, parce que il doit avoir peur parce que cette année l'équipe de France est vraiment injouable. Donc il essaye de nous déstabiliser par tous les moyens qu'il peut. Et mais bon, ça marchera pas puisque on passera. Et puis Et puis pour répondre à la colonisation, ben bien sûr, la France, moi étant un ancien militaire, je connais un peu l'histoire, donc je sais très bien que la France est métissée depuis de nombreuses années. Et puis c'est ce qui fait la force de la France, justement.
Et c'est ce qui fait la force de la France. Et je voudrais préciser d'ailleurs, Thomas, que Pedro Sanchez, l'actuel Premier ministre espagnol, a évidemment répondu et condamné les propos du précédent Premier ministre. Et il nous lance à nous, la France. France, on se retrouve en demi-finale, que le meilleur gagne et que le racisme perde. Voilà donc les propos de l'actuel Premier ministre espagnol. Merci Thomas, électricien à Vitrolles. Et dans un instant, c'est la voix de droite, c'est lundi, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Un évêque menace de ne plus donner la communion aux députés qui voteront en faveur du texte sur la fin de vie. Est-ce qu'il a raison de faire ce chantage à l'excommunication de l'Église ?
Vous savez, moi je représente la voix de droite pour cette émission, mais c'est une droite séculaire, une droite laïque, une droite qui ne se fera pas dicter son comportement par l'Église, aussi ancienne et prestigieuse soit-elle.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h51 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h52, vous êtes bien sur RMC. Le 14 juillet, c'est demain, et Victor Paris prend un peu d'avance.
Et oui, le fameux feu d'artifice de la Tour Eiffel aura lieu ce soir pour laisser demain toute la place à un hommage aux victimes des attentats de Nice. Alors on dit feu d'artifice pour ce soir, mais c'est un véritable show hein, cette année. Le thème, c'est « Heureux ensemble ». Alors oui, un peu de David Guetta dans la bande-son pour habiller ce spectacle, avec également 1600 drones au programme. Il y aura également du feu Chatterton. Feu Chatterton, vous vous en souvenez peut-être, avait été entendu notamment pendant la panthéonisation de Missak Manoukian. Et puis en plus de célébrer les 400 ans de la Marine Nationale demain, un clin d'œil sera fait pendant ce feu d'artifice aux 70 ans du jumelage entre Paris et Rome.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Il est 7h53 et c'est lundi. Le lundi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
L'évêque de Bayonne, Monseigneur Marc Hayet, menace de refuser la communion aux députés qui voteraient la loi sur la fin de vie mercredi. L'abbé Michel Viau du diocèse de Blois va encore plus loin en assurant qu'il refusera aussi de célébrer leurs funérailles, leur mariage et de les accepter comme parrains. Ça vous inspire quoi?
Si Monseigneur ait envie de faire la politique, qu'il se présente aux élections. Un évêque qui menace des députés élus au suffrage universel, pardonnez-moi Apolline, c'est un contre-parlementaire en soutane. Alors qu'il joue le jeu, qu'il se présente ou qu'il retourne à sa cathédrale.
N'est-ce pas d'abord une position doctrinale? C'est-à-dire que ça, c'est son rôle.
Oui, c'est son rôle, sauf que la menace ne l'est pas. Sur la forme, c'est d'ailleurs assez un petit peu un pétard mouillé, cette menace, si vous me permettez. D'où d'ailleurs le grotesque de la scène. C'est un peu comme interdire l'alcool aux partisans de la prohibition. Combien de députés, franchement, vont encore à la messe en 2026? Refuser la communion à ces gens-là, c'est menacer un végétarien de lui confisquer sa côte de bœuf.
Sur le fond.
Alors sur le fond, il y a un paradoxe fascinant dans l'Église catholique moderne. D'un côté, elle réforme, elle purge, elle modernise. Regardez ce qui s'est passé début juillet. La fraternité Saint-Pie-X, l'aile ultra-traditionaliste, vient d'entrer en schisme et voit ses quatre nouveaux évêques excommuniés par Rome. Le pape a tranché. Il refuse tout retour en arrière. Et regardez tout ce que Rome, paradoxalement, a lâché depuis un demi-siècle. En 2007, elle enterre discrètement la doctrine des limbes. Vous vous souvenez, c'est les enfants morts sans baptême. Maintenant, l'Église nous dit, ils ne seront plus condamnés à un no man's land spirituel. En 2018, la peine de mort, tolérée pendant 2000 ans, devient soudain inadmissible. Le catéchisme est donc modifié. En 2016, on ouvre la communion aux divorcés remariés. En décembre 2023, Rome autorise la bénédiction des couples de même sexe. Sur la messe en latin, sur l'accueil des personnes LGBT, sur l'écologie, l'Église a bougé, bougé, bougé. Mais sur la fin de vie, là, plus rien ne bouge. Là, c'est infranchissable. Là, on excommunie, là, on menace. Pourquoi ce sujet-là et pas d'autres?
Enfin, l'Église a le droit de dire qu'elle défend la dignité de la personne humaine face à un droit de mourir qu'elle estime être un abandon.
Mais défendre la dignité humaine, c'est défendre la liberté humaine. Voilà la question, la seule vraie question de ce débat. Si un individu n'est pas propriétaire de sa propre mort, de quoi est-il réellement propriétaire? Est-il seulement libre? La liberté de l'homme moderne, c'est d'abord la liberté sur son corps, sur sa vie et bien évidemment au bout, sur sa mort.
Ça, c'est votre droit de le penser, mais l'Église, elle a bien le droit d'avoir une voix légitime sur les questions justement de naissance et de mort.
Bien sûr. À la messe. Pour les fidèles. Là, elle est souveraine. Mais faire chanter les élus du peuple qui écrivent la loi au nom du peuple, ça non. Ça, jamais.
Et le vote, c'est mercredi. Et on verra bien effectivement ce qu'il en sort. Il va falloir passer pour vous ce vote.
Il faut le passer. Alors en l'encadrant avec toute notre lucidité républicaine, même si elle a tendance à manquer de nos jours récents, et avec le respect immense dû à ceux qui en fin de vie souffrent et veulent choisir. Monseigneur Hayek, quant à lui, est libre de refuser la communion à qui il veut, grand bien lui fasse. Mais la République, elle, ne se fera pas dicter sa loi ni par un dieu, ni par ses hommes.
Merci beaucoup Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. Demain ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo. Il est 7h56 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une bien sûr cet incendie inédit en région parisienne. Nous serons en direct depuis la forêt de Fontainebleau dès le début du journal. La météo, Anthony nous le dira, légère baisse de température à l'ouest mais toujours caniculaire ailleurs. Et puis juste après le journal, ce sera l'économie avec Emmanuel Le Chip. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
On parlait canicule dans les logements, il fait toujours aussi chaud. Hein.
Oui, il y aura un avant et un après canicule sur le marché de l'immobilier.
Vous nous le dites dans un instant, 7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Excellent réveil, très belle journée à tous. Il est 8h, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous serons dans ce journal en forêt de Fontainebleau où des pompiers de toute la France sont envoyés en renfort ce matin pour lutter contre le très gros incendie qui fait rage depuis hier. 800 hectares ont déjà brûlé, 1000 habitants évacués et pour la première fois des canadairs sont déployés en région parisienne. Nous serons à Paris aussi dans ce journal avant le discours aux armées d'Emmanuel Macron. C'est le 14 juillet, vous verrez, qui commence en fin de matinée. Et nous serons aussi à Dallas, aux États-Unis, où les Bleus sont arrivés dans la nuit à la veille de leur demi-finale du mondial contre l'Espagne.
L'image est saisissante ce matin. Un épais nuage de fumée recouvre la forêt de Fontainebleau.
On n'aurait jamais pensé avoir le feu aussi près de Paris, c'est ce que disent les pompiers, puisque c'est à 60 km de la capitale que cet incendie a pris hier après-midi dans un champ, avant de se propager à la forêt et même de traverser l'autoroute A6 qui est toujours coupée dans le secteur, là au moment où on se parle. Je vous propose d'écouter tout d'abord Madeleine. Madeleine, c'est une des 1000 habitantes qui a dû être évacuée dans la soirée de son village du Vaudoué.
On a senti l'odeur, on a entendu les pompiers, on a entendu les hélicoptères bombardiers d'eau qui faisaient une noria autour du secteur. C'est un petit peu stressant, surtout quand on n'a plus tout à fait 20 ans. On a oublié beaucoup de choses à la maison. C'est pour ça que les secouristes sont partis chercher en particulier les médicaments dont mon mari a besoin. Nous avons un jardin boisé d'ailleurs, donc avec beaucoup de pins. Donc c'est quand même un peu inquiétant tout ça. Finalement, l'évacuation, on s'imagine que c'est seulement dans les Pyrénées orientales et en Provence. Et non, c'est pas vrai.
Et non, c'est à 60 km de Paris et dans le secteur, dans un autre village concerné, Noisy-sur-École, au QG des pompiers. On vous retrouve, Romain Houg, en direct ce matin pour RMC. L'info, c'est que pour la première fois, donc, des canadaires sont déployés. On est à 60 km de Paris et des canadaires sont envoyés pour éteindre le feu.
Oui, elle vient d'ailleurs d'avoir passé un juste au-dessus de nos têtes. C'est, vous l'avez dit, une première pour l'Île-de-France. Deux canadaires qui vont aller directement écoper dans la Seine avant de larguer leur cargo sur les flammes de cette vie extrêmement virulent. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu ici. Les habitants du secteur sont prévenus par un message d'alerte quelques instants avant l'arrivée de moyens aériens.
Romain, je vous coupe. Petit souci avec vous. On comprend bien avec ce feu donc en forêt de Fontainebleau. Deux trois secondes, on va relancer la liaison en votre compagnie depuis donc le QG des pompiers qui se situe à Noisy-sur-École. Donc c'est à l'ouest hein, de cette forêt de Fontainebleau qui brûle toujours ce matin. 800 hectares déjà ravagés par le feu. Romain Houg, des canadaires donc, c'est ça, déployés au-dessus de cette forêt de Fontainebleau.
Oui, je viens justement d'en voir passer un juste au-dessus de nous et c'est une première pour l'Île-de-France. Deux canadaires qui vont aller directement écoper dans la Seine avant de larguer leur cargaison d'eau sur les flammes de cet incendie extrêmement virulent. C'est vraiment quelque chose que l'on n'a jamais vu ici. Les habitants du secteur seront d'ailleurs prévenus par un message d'alerte quelques instants avant l'arrivée de ces moyens aériens. Seine donc tout à fait historique et puis c'est une première qui en succède à une autre puisqu'il hier, déjà pour la première fois, ce sont deux DASH qui ont également été mobilisés en Île-de-France. Voilà, qui témoignent de l'importance de cet incendie, d'une ampleur exceptionnelle, nous disent les pompiers depuis hier soir. Déjà plus de 800 hectares partis en fumée. Les pompiers redoutent que la barre fatidique des 1000 hectares ne soit dépassée ce matin. Et plus de 400 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Ici, au poste de commandement où les va-et-vient des véhicules de secours incendie ne cessent jamais, eh bien, le nombre de véhicules de pompiers de camion est juste impressionnant. Ils se tiennent prêts à partir à tout moment, partir relayer leurs collègues qui sont en ce moment en train de lutter au plus près des flammes, à peine quelques kilomètres d'ici. C'est d'ailleurs ici, au poste de commandement des pompiers, qui est attendu le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ce matin. Et puis, c'est une très longue journée qui attend les soldats du feu, voire même plusieurs très longues journées, puisque la puissance de cet incendie est telle qu'il faudra sans doute plusieurs jours avant de parvenir à l'éteindre.
Avec les canadaires qu'on entend donc derrière vous, Romain, ou depuis la forêt de Fontainebleau, il y a une conséquence de ce feu et puis d'un autre aussi qui a pris hier dans la même région, près de Melun, c'est que le trafic des trains est perturbé toujours sur la ligne à grande vitesse entre Paris et le Sud-Est. Ça tombe mal évidemment en plein été, en pleine vacances scolaires. Il y a eu jusqu'à 9 heures de retard cette nuit pour un TGV en provenance de Lyon. Et Pierre Bazin, vous qui êtes en direct de la gare de Lyon à Paris ce matin pour RMC, vous nous dites que les retards continuent.
Oui, ici c'est la grande pagaille, même si le trafic peut reprendre normalement selon la SNCF. Il faudra du temps et des solutions pour évacuer ces voyageurs comme Sofiane. Le jeune homme devait descendre dans le sud.
Le programme c'est tout simplement de repartir à Marseille-Saint-Charles au train de 6h03. Il a été supprimé à cause des incendies, donc j'ai dû en reprendre un autre. Et ben lui aussi n'est pas possible, tout est complet. Tous les trajets menant à Marseille-Saint-Charles, en tout cas pour toute la journée, ils sont complets. On est comme des tortues sur le dos, on va dire. Voilà. Donc on ne sait pas trop comment s'en sortir. Ça agace un peu mine de rien.
Tout autour de nous, il y a des centaines de voyageurs qui attendent, allongés au sol, les yeux rivés sur des tableaux d'affichage. C'est le cas d'Ivana et de ses amis. Ces trois touristes devaient déjà partir hier soir pour les vacances. Elles ont dormi ici, à même le sol.
Toute la nuit, on a dû dormir ici. On a essayé de demander quelques aides, mais ils m'ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour nous. Voilà. Donc on espère de partir.
Vous vous sentez comment ?
Fatiguée. C'était difficile.
La SNCF indique donc que la circulation ferroviaire a repris à une vitesse normale sur la ligne à grande vitesse qui relie Paris à Lyon. Malgré cela, il faudra plusieurs heures et des trains supplémentaires pour emmener tous ces voyageurs naufragés.
Pierre Bazin, direct de la gare de Lyon, ce matin pour RMC. On parle beaucoup des incendies, mais il y en a beaucoup, hein, des incendies. Les pompiers sont déployés sur d'autres feux. Un dans le Maine-et-Loire, au nord d'Angers, toujours en cours, écrit ce matin le journal Ouest France. Près de 300 hectares qui ont brûlé dans une zone boisée. Et un autre dans le Finistère, il a pris dans la soirée au bord de l'eau, au Cap Fréhel. Un camping a été évacué. D'importants moyens sont déployés ce matin, écrit le journal Le Télégramme. Alors, dans ce contexte, vous savez qu'énormément de feux d'artifice du 14 juillet sont annulés. Celui de Paris aura bien lieu ce soir. Il a été avancé d'une journée pour respecter les commémorations des 10 ans de l'attentat de Nice qui auront lieu demain soir sur la promenade des Anglais en présence d'Emmanuel Macron qui, avant ça, va lancer en quelque sorte les festivités du 14 juillet. Thomas Becker pour RMC en fin de matinée avec un discours aux armées.
Oui, Emmanuel Macron devant les troupes à l'hôtel de Brienne ne se privera pas de rappeler sa promesse tenue. La hausse du budget des armées, 64 milliards d'euros cette année, c'est le double par rapport à 2017. Autre illustration, le réveil stratégique de l'Europe, cher au président de la République. Il en sera question aux Invalides cet après-midi avec la réunion de la coalition des volontaires, alliance née à Paris l'année dernière, une trentaine de pays, principalement européens, pour soutenir l'Ukraine. Ils seront mis à l'honneur demain du dernier défilé du 14 juillet pour le chef de l'État. L'Élysée qui tente déjà d'écrire une partie de l'héritage de la présidence Macron en promettant un défilé massif et inédit avec notamment 500 militaires étrangers membres de la coalition qui ouvriront la marche.
À 8h07 sur RMC, je vous signale que c'est la première journée de repos sur le Tour de France dans le Cantal, d'où ça repartira demain pour une étape de montagne, celle du 14 juillet dans le Massif Central au lendemain de la victoire du Néerlandais à Ussel, Mathieu Van Der Poel. C'est...
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les Bleus qui sont arrivés à Dallas dans la nuit, c'est là qu'ils joueront demain leur demi-finale du Mondial contre l'Espagne. Première fois qu'ils font autant de chemin pour un match. Jusque-là, tout se passait, vous le savez, sur la côte est des États-Unis. Nicolas Pelletier, vous avez assisté à leur arrivée dans la nuit. Tout s'est fait dans le calme et sans euphorie.
Oui, les Bleus ont pris leur quartier en plein cœur de Dallas dans le très chic Hôtel Adolphus qui se trouve donc dans ce centre de Dallas. Ils sont arrivés devant une toute petite foule de supporters, principalement acquises à la cause de Kylian Mbappé, des joueurs dans leur bulle, sans même un petit geste pour les fans présents, entraînant des déceptions dans les rues. Nous sommes très loin d'une ambiance de demi-finale de Coupe du Monde où les 37 degrés du thermomètre ne facilitent pas la tâche pour les supporters français qui seront 3000 demain soir à Dallas. Mais ce sont surtout des maillots espagnols et argentins qui sont visibles dans cette zone où la communauté hispanique est très implantée. Ce soir, les hommes de Didier Deschamps s'entraîneront sur un petit stade de la ville texane et non pas dans l'enceinte ultra moderne située en périphérie. Ils découvriront ce stade fermé et entièrement climatisé seulement demain lors de la demi-finale de Coupe du Monde. Un match où Didier Deschamps doit aligner le même 11 que face au Maroc. Seule nouveauté, Aurélien Tchouaméni, remis de sa blessure, devrait remplacer Manu Koné au coup d'envoi face à l'Espagne.
Demain, donc, à 21h sur RMC. Et vous en avez l'habitude, vous ne raterez rien de l'avant ni de l'après-match à l'écoute d'RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet. Et puis, Quentin en parlait, évidemment, à l'instant, ce feu, la forêt de Fontainebleau aux portes de Paris, où l'on retrouve tout de suite en direct Sylvain Vaudic. Bonjour. Vous êtes le porte-parole des pompiers de Seine-et-Marne. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, monsieur, si le feu progresse toujours?
Oui, bonjour Apolline. Alors écoutez, la situation ce matin, c'est que le feu progresse toujours. À ce stade, 800 hectares ont brûlé depuis le départ du feu hier après-midi. L'enjeu ce matin, ça va être de pouvoir organiser les opérations à venir et notamment l'accueil de tous les renforts extra-départementaux qui vont nous rejoindre dans le courant de la journée.
Il y a toujours deux Canadairs qui sont mobilisés?
Alors effectivement, information du coup inédite, hein, puisque depuis ce matin, deux Canadair effectuent des largages. Ce sont les premiers largages opérationnels, c'est-à-dire hors formation, qui ont lieu sur la forêt de Fontainebleau. On n'avait jamais vu ça. Donc aujourd'hui, les sapeurs-pompiers en Seine-et-Marne sont confrontés à des feux tels qu'on peut en voir dans le sud de la France.
Quand vous dites on n'avait jamais vu ça, c'est-à-dire que vous qui êtes porte-parole des pompiers de Seine-et-Marne, en Seine-et-Marne, vous n'aviez jamais eu un feu d'une telle ampleur?
Non, tout à fait. C'est un feu qui est inédit et qui surprend par l'ampleur. On savait que le niveau de risque augmentait d'année en année sur la forêt. On s'y préparait. On a eu des exercices même tout récemment sur le secteur dans lequel on se trouve. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à la réalité et à ce feu très important.
Vous avez combien d'hommes qui sont mobilisés?
Alors actuellement, le dispositif s'élève à 300 pompiers qui ont lutté toute la nuit. Et qui vont être relevés dans le courant de la journée grâce à la solidarité nationale.
solidarité nationale, internationale s'il le faudra. On sait qu'il y a vraiment une forme de solidarité européenne. Je poserai d'ailleurs la question tout à l'heure au ministre des Affaires étrangères. Sylvain Vaudic, vous êtes inquiet pour la journée qui commence ?
Alors ce matin, nous sommes plutôt rassurés dans la mesure où nous avons réussi à bien sectoriser notre intervention. Nous avons une vision plus claire de la situation et le travail de jour est toujours plus facile que celui de nuit, notamment pour la sécurité de nos personnels.
Est-ce qu'il y a aussi, on parlait de l'assise qui était coupée, est-ce que c'est toujours le cas au moment où on se parle ?
Alors je sais qu'il y a un point qui va être fait dans quelques temps. Pour le moment, je n'ai pas d'informations sur le sujet.
Ça veut dire qu'au moment où on se parle, en tout cas, effectivement, la situation est à peu près la même. Merci infiniment d'avoir pris le temps. Courage à vous, Sylvain Vaudic. Vous êtes porte-parole des pompiers de Seine-et-Marne et vous nous le dites, c'est du jamais vu, effectivement, dans votre secteur. Bon courage, effectivement, pour la journée qui s'ouvre et on espère un moment plus clément. Il est 8h12 sur RMC, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le chiffre, la canicule est en train de bouleverser notre rapport au logement.
Oui, la chaleur n'a jamais autant éprouvé les Français au quotidien, et particulièrement chez eux. 19 millions d'entre eux ont déjà dû quitter temporairement leur logement à cause des températures élevées, nous dit l'Observatoire Leroy Merlin. Et 51% des Français estiment désormais que la chaleur est le risque principal auquel son logement est exposé. C'est le chiffre quasiment le plus élevé de toute l'Europe. Et c'est un inconfort qui frappe deux fois plus les locataires que les propriétaires.
La chaleur qui a un impact sur le marché immobilier, sur les recherches ?
Absolument. Un ménage sur trois à l'échelle nationale envisagerait de quitter son logement en raison des canicules, nous dit Le Bon Coin. Mais c'est bien plus en Ile-de-France, par exemple. Dans les agences immobilières, la première question qui revient aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a la climatisation dans le logement que je vais visiter, même si son usage intense peut faire grimper de 50% votre consommation d'électricité. C'est un chiffre LOAT. Alors pour ceux qui le peuvent, qui ne sont pas retenus par leur travail, par leur famille, qui en ont les moyens, ça représente quand même 10 à 15% des Français. Il y a l'envie de déménager vers des régions moins chaudes ou d'acquérir une résidence secondaire. Les zones privilégiées, c'est évidemment les littoraux tempérés de l'Atlantique ou la moyenne montagne. Le problème, c'est qu'évidemment, ces zones connaissent un fort succès. Le prix moyen du mètre carré y atteint 4 600 € en moyenne contre 3 000 sur la France en général.
Emmanuel, comme chaque matin, mais j'allais dire encore plus particulièrement à nouveau, on s'intéresse aux chiffres à la pompe, aux chiffres de l'énergie. Et je le rappelle, cette nuit, c'est à nouveau des frappes qui ont eu lieu. Le détroit d'Ormuz qui, d'après l'Iran, est à nouveau fermé. On aura d'ailleurs les réponses du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui est mon invité à 8h30. Mais quand on regarde les prix, on en est où, Emmanuel ?
On peut parler de rebond, hein, véritablement, puisque sur le prix du gazole, on est remonté à 1,99€ le litre. C'est 9 centimes de plus en une semaine. Sur le sans-plomb 95, on est à 1,94€. C'est 4 centimes de plus en une semaine. Hein. Comme d'habitude, le gazole est toujours plus réactif que le sans-plomb. Et puis le pétrole, bah oui, 79$ le baril. C'est presque 10$ de plus qu'il y a une semaine. Et le gaz, lui, a augmenté de 20% au cours des trois dernières semaines.
Donc tout remonte.
Tout remonte.
Tout remonte. Merci Emmanuel. Il est 8h15 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Restez bien avec nous dans un instant. On retrouve notre moment humour avec le meilleur d'Arnaud Demanche. À 8h30, je vous le disais, mon invité dans le face-à-face, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Nouvelle frappe américaine cette nuit sur l'Iran, et l'Iran qui a répliqué sur l'ensemble quasiment des pays du Golfe. Téhéran qui réplique, qui envoie des drones et qui menace également la France. Est-ce que le conflit au Moyen-Orient est en train de repartir ? J'interroge donc le ministre des Affaires étrangères sur RMC et BFM TV à 8h30. Juste après, ce sera le choix de la rédaction. 10 ans après les attentats de Nice, comment les victimes arrivent à se reconstruire ? Nous avons pu les rencontrer, leurs témoignages, ils sont très forts et vous les entendrez à 8h50. Et puis toutes les infos Coupe du Monde avant la demi-finale France-Espagne de demain. Restez bien avec nous, 8h15 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours qu'il est avec nous, Arnaud Demanche, même quand il n'est pas là. Parce qu'on en a gardé le meilleur, Arnaud Demanche. Et c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint. Salut Arnaud.
Hello you. Yeah. Bonjour à tous, bonjour les amis. C'est la dernière semaine avant Noël, celle où on prépare les cadeaux.
Les enfants attendent avec impatience le Père Noël, ce monsieur farceur, âgé et barbu, qui rentre chez vous en pleine nuit parce qu'il aime vos enfants. Oh, hein, il rentre dans la chambre des petits, il les regarde dormir, non, tellement attendri. Puis il dépose des jouets sous un conifère mort décoré par une mère de famille en burn-out. Voilà, c'est la tradition.
Mais
je suis désolé, c'est comme ça, quoi. Tu sais que les enfants peuvent même téléphoner au Père Noël. Moi, jamais mon gamin, il fait ça. Jamais il appelle un vieux au téléphone qui lui dit « T'as été mignon cette année ? Tu sais, je te regarde souvent de là où je suis. » En plus, ça coûte 3 euros la minute. Il a trouvé une bonne combine, Gabriel Matzneff.
Hein. Oh non.
Théotime, tu aimes les films avec des gladiateurs ? On va raccrocher, monsieur.
Après les conditions de travail des employés chez Shein, plusieurs reportages ont dévoilé les conditions de travail dans des centres de cyber-arnaque. En Birmanie.
Oui, c'est affreux, hein. Donc les employés sont battus, sont enfermés 18 heures par jour là-dedans. Vous savez qu'en Égypte, on fouettait les esclaves pour construire des pyramides. Eh bien là, c'est pour créer des faux profils de Brad Pitt pour escroquer des Marie-Josiane à Clermont-Ferrand qui sont divorcées depuis 12 ans. Et alors non seulement ils doivent se faire passer pour Brad Pitt, mais en plus, Brad Pitt a été anobli. Maintenant, c'est un prince du Nigeria. Et comme il a la double nationalité et que les fonds de son héritage sont bloqués à la banque et qu'il a crevé sur le chemin, Marie-Josiane doit lui envoyer 100 000 euros via Western Union et une bombe anti-crevaison, etc. Et ta mère, elle gobe ça. Après, Macron nous a fait gober qu'il allait relancer notre économie et il nous a pris des sous aussi. Donc, c'est on est tous victimes de ce genre de trucs. Ça se trouve, Macron est birman. Mais ceci dit, des escrocs qui arrivent à ramasser 800 000 euros tous les 15 jours, il faut les mettre au gouvernement. On devrait déguiser nos ministres en Brad Pitt et les faire correspondre avec des vieilles allemandes. Elles seraient là. Ah, Gunther, Brad Pitt vit à Paris et il a absolument besoin d'argent. Et schling, un petit remboursement de la dette. C'est comme ça qu'on avance.
Ah oui, franchement, il devrait vous suivre. La publicité Intermarché mettant en scène un loup végétarien qui se fait des amis est un succès.
Bah oui.
Pas mal.
Je fais un peu comme vous.
Les gens me connaissent.
Tout le monde fond pour ce loup qui devient végétarien pour avoir des amis, alors que tout le monde sait que les végétariens n'ont pas d'amis. Mathieu Béliard, on sait quelque chose. Hein
Mathieu, merci de m'avoir invité à dîner, mais en fait, je mange pas de génocide de bœuf, en fait.
Mais j'ai fait un tataki de bœuf en basse température au fer de jus oxydé et gel translucide de terroir bovin. Ça m'a pris 7 heures et j'ai dû le faire avec Thomas Pesquet, tellement c'est compliqué. Alors tout le monde sait que les loups ne sont pas végétariens en plus. Ils mangent les mers grands. Hein
oui.
François Bayrou le disait, si les meutes de loups n'avaient pas été éradiquées en France, ils auraient pu bouffer nos grands-mères et il y aurait moins d'enculés de boomers et de retraites à payer. Donc, réintroduisons les loups dans les centres-villes avec des vieux comme à Nice ou à Cannes.
Voilà, bien sûr.
Alors un jeune loup qui fait tout pour être inoffensif et populaire, Bardella va déposer une plainte pour plagiat. Et tout ça va relancer la mode des pubs de Noël.
Oui.
D'orage, un miracle se produisit au pied du sapin. Une poupée devint vivante.
Oh mon Dieu, c'est merveilleux! Je suis en vie! Je sens l'odeur du sapin! Je peux marcher! Je suis devenue une vraie petite fille! C'est le miracle de Noël!
Je la sens pas bien cette blague.
Oh, ma poupée chine qui parle! Théotime, il faut que je te laisse! Ma petite fille, t'as été sage cette année?
Ce court-métrage féerique vous a été présenté par le BHV. Le BHV, trois lettres pour le plus beau des Noëls. Allez, profitez bien de la magie de Noël!
C'était le meilleur d'Arnaud Demange. Il est 8h21 et vous êtes bien sûr RMC. Et dans un instant, ça se passe sur RMC et sur BFM TV. Le face-à-face, mon invité, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Nouvelle frappe américaine cette nuit sur l'Iran. Téhéran qui a répliqué en envoyant des drones sur un certain nombre de pays du Golfe, mais également sur la Jordanie, où la France compte d'ailleurs des bases militaires. Le conflit au Moyen-Orient est-il en train de repartir? J'interroge le ministre des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clément Gouitz.
La forêt de Fontainebleau en Île-de-France brûle, un incendie d'une ampleur exceptionnelle qui évolue de façon très inquiétante. Plus de 800 hectares parcourus depuis hier par les flammes, 300 pompiers mobilisés, 2 canadaires, un dash, 2 hélicoptères déployés et des renforts massifs de l'Est et du Sud sont attendus dans la journée et de nombreuses évacuations ces dernières heures, notamment 1000 habitants et touristes de la commune de Vaudouet en Seine-et-Marne. Incendie qui provoque des fortes perturbations depuis hier sur les rails. La SNCF annonce ce matin un retour à la normale sur la ligne TGV Sud-Est, mais on constate toujours ce matin d'importants retards en gare de Lyon, plus de 2 heures sur certains trains. Autre conséquence de cet incendie, l'autoroute A6 est fermée à la circulation entre Soisy-l'École et Nemours. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, lui est attendu ce matin sur place. Plus de 1500 fêtards toujours rassemblés dans le Morbihan depuis vendredi, une rave party illégale. Le préfet dénonce l'irresponsabilité des organisateurs en cette période de forte chaleur. Les Bleus ont posé leur valise à Dallas à 24 heures de leur demi-finale face à l'Espagne. Et Sinner, lui, sacré une nouvelle fois à Wimbledon, son deuxième titre d'affilée. Le numéro 1 mondial a battu Zverev en 4-7 hier. Jour de repos sur le Tour de France aujourd'hui. Van der Poel s'est imposé hier au sprint lors de la 9e étape du Tour de France. La météo, encore une journée très chaude et caniculaire. 37 départements en vigilance rouge, canicule 39 en orange. Quelques averses, parfois orageuses, très isolées, risquent de concerner la moitié nord du pays. Le vent, lui, reste sensible partout, accentuant le risque de départ de feu. Côté température, il fait de 21 à 39 degrés, 21 à Cherbourg, 39 à Grenoble.
C'était le rappel des titres de Clément Guitz. Dans un instant, mon invité, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur RMC et BFM TV. Après une nuit à nouveau de frappe entre l'Iran et les États-Unis et aussi dans tous les pays du pourtour du Golfe, ces frappes, donc, bien sûr, et puis à la veille du 14 juillet, qui se veut une démonstration de force, justement, vis-à-vis du reste du monde. Jean-Noël Barrot, mon invité, dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Noël Barrot.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. De très nombreuses questions à vous poser, mais d'abord évidemment sur ce qu'il se joue en ce moment même entre l'Iran et les États-Unis, mais également les pays voisins. Est-ce que vous estimez que la guerre a repris ?
Personne n'a intérêt à ce qu'elle reprenne. Et toutes les parties, l'Iran, les États-Unis, doivent se tenir aux engagements qu'ils ont pris lorsqu'ils ont signé un accord il y a à peu près un mois. Tous ont intérêt à éviter une nouvelle escalade qui ne ferait que des perdants en Iran et aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde, puisqu'on se souvient de ce qui s'est produit avec la flambée des hydrocarbures qui avait un peu baissé grâce à l'arrêt des hostilités.
On va y revenir, mais lorsque vous dites personne n'a intérêt, on a l'impression que c'est un vœu pieux. Moi, je vous demande ce qui se passe sur le terrain. Comment vous le qualifiez quand on voit les frappes qui ont eu lieu la nuit dernière, quand on voit celles qui avaient déjà eu lieu les nuits précédentes? Est-ce que le constat, au-delà de l'espérance, c'est que le conflit, dans les faits, est de retour?
Le constat, c'est qu'il y a un accord qui a été trouvé et qui permet des choses très simples, c'est-à-dire l'arrêt des hostilités, la réouverture du détroit d'Ormuz et le démarrage d'une négociation pour encadrer strictement le programme nucléaire iranien. Il faut que toutes les parties reviennent au protocole de négociation qui a été fixé par cet accord, parce que, je le redis, elles n'ont aucun intérêt à l'escalade. Et c'est d'ailleurs pour cette raison.
Pourquoi? Mais parce que, pourquoi frappe-t-elle?
Pourquoi frappe-t-elle? Eh bien parce que l'Iran, il y a quelques jours, a pris des frappes à l'encontre de navires qui circulaient dans le détroit d'Ormuz, frappe que nous avons condamnée, ce qui a déclenché un cycle de représailles qui doit maintenant s'arrêter pour que les négociations reprennent.
L'Iran qui affirme que le détroit d'Ormuz est fermé.
Et les États-Unis qui affirment qu'il est ouvert, mais de fait, étant donné le niveau de tension qui s'est réinstallé, il est très difficile d'envisager le retour de la circulation maritime. C'est inacceptable, puisque ce détroit, il est un bien commun de l'humanité. Il doit permettre, comme tous les détroits, à la circulation maritime de se faire sans entrave. Et donc, l'Iran doit désormais réouvrir, comme il s'y est engagé, ce détroit et assurer sa sécurité.
On se souvient de la signature, effectivement, de ce fameux accord ou pré-accord à Versailles. Sous vos yeux, vous étiez debout, juste derrière le président américain et le président français, au moment où cet accord a été signé. A-t-il encore du sens aujourd'hui?
Je crois qu'il prévoit une période de 60 jours, dans une première période de 30 jours. Nous sommes à peu près, dans quelques jours, nous atteindrons
cette période de
30 jours, avec la réouverture d'un détroit, son déminage, et ensuite les négociations sur le programme nucléaire. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous avons accueilli à Versailles cette signature d'un accord que nous n'avons pas négocié, mais nous avons déployé des capacités militaires dans la région, en marquant notre disposition à travailler de manière pacifique, strictement défensive, pour faciliter la restauration du trafic maritime, notamment par des actions de déminage. Donc nous avons tout notre possible.
On les mène en ce moment même.
Nous
on
avons,
est actifs sur le.
Vous voyez bien que la situation dans le détroit est très explosive, ce qui empêche évidemment la circulation non seulement des navires, mais aussi le déploiement de capacités qui viendraient porter assistance pour que le déminage puisse se faire, ou éventuellement des escortes de navires. Mais nous sommes prêts à le faire à condition que le calme revienne.
Nous sommes prêts à le faire, mais nous ne le faisons pas encore.
Nous sommes prêts à le faire à tout moment.
Jean-Noël Barrot, le porte-avions, le Charles de Gaulle, est rentré ce week-end à son port d'attache à Toulon. Est-ce qu'il a vocation à repartir ?
Il est rentré car sa mission était terminée, mais cependant qu'il rentrait, d'autres capacités étaient déployées dans la région pour en lien avec des partenaires, avec d'autres pays qui comme nous, n'ont pas pris part à cette guerre, être en capacité d'apporter l'assistance nécessaire à la restauration du trafic maritime.
Donc il y a d'autres moyens français.
Oui, de déminage notamment. De déminage notamment.
Absolument. Qui sont prêts dès que le feu vert sera donné, par qui, par quoi, par la situation.
Dès que les conditions le permettent, c'est-à-dire l'assentiment des pays riverains du détroit, à commencer par Oman, mais évidemment l'Iran.
Avec Oman, les relations sont bonnes.
Absolument. Et vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, le sultan d'Oman était présent à Paris, ce qui nous a permis justement de finaliser ces préparatifs pour que, dès que les conditions le permettent, notre action, combinée avec celle d'autres pays, puisse faciliter la restauration.
D'autres pays ont été touchés la nuit dernière, notamment par des drones ou des missiles iraniens. Oman, vous le disiez, le Koweït, la Jordanie. Nous avons des bases françaises dans ces pays-là. Est-ce que ce matin, Jean-Noël Barrot, vous pouvez nous dire si les bases françaises sont en sécurité ?
Elles le sont. Et nous avons condamné ces frappes indiscriminées de l'Iran, qui nous rappellent celles qu'elle a conduites au début de la guerre, qui nous ont conduit d'ailleurs à déployer des moyens considérables pour protéger à la fois nos ressortissants et nos bases, mais aussi nos partenaires avec lesquels nous sommes liés par des accords de sécurité. Souhaitons que nous ne revenions pas à cette situation de très grande tension dans cette région du monde et en particulier dans le détroit d'Ormuz, parce que je le redis, ça ne fait que des perdants.
Vous le redoutez, vous vous dites qu'il est possible au moment où l'on se parle que les hostilités reprennent à un niveau comme on l'a connu au début.
Je me dis que c'est dans l'intérêt de personne, ni de l'Iran ni des États-Unis, et je souhaite que chacun revienne au terme. Je souhaite que chacun revienne au terme de l'engagement qui a été pris.
Une question aussi sur les prix. Vous le disiez, ça a un impact évidemment. Les prix à la pompe commençaient légèrement à baisser, même si on le sentait, il y avait une sorte de plancher. Et ça y est, ils repartent à la hausse. Ce matin, le prix du baril atteint les 78 dollars le baril, les prix à la pompe, le prix du litre de gazole, c'est 1,99€, c'est quasiment les plus hauts qu'on avait connus. Est-ce que ça veut dire que effectivement les conséquences, y compris pour la France, là, pour les Français, elles se font déjà sentir?
Tant que nous resterons dépendants, notamment des hydrocarbures qui viennent de l'autre bout du monde, eh bien nous subirons les conséquences de guerres qui ne sont pas les nôtres ou de catastrophes en tout genre. Et c'est pourquoi, en même temps que le gouvernement agit sous l'autorité du Premier ministre pour apporter un soutien aux secteurs qui sont en première ligne ou qui sont plus directement affectés, il nous faut impérativement et rapidement nous défaire de ces servitudes, devenir plus indépendants, plus autonomes. C'est tout l'objet de ce plan d'électrification que nous avons accéléré ces mois derniers.
Avec deux questions encore sur l'Iran, et puis je voudrais vous interroger évidemment sur l'Ukraine. Sur l'Iran, ce journal iranien, un quotidien ultra-conservateur qui s'appelle Amshari, qui fait une liste dans laquelle il y a Emmanuel Macron et la France, dont il considère que ce sont des personnalités qui devront payer pour la mort de Ali Khamenei. Le gouvernement français pour l'instant n'a pas réagi à ces mots de vengeance qui ont également été prononcé par le guide suprême, nous dit en tout cas ce journal. La vengeance est inévitable, elle sera inévitable. Cette vengeance est la volonté de notre nation, elle doit être accomplie inévitablement, avec donc cette liste dont Emmanuel Macron et la France.
Oui, je ne vois pas commenter les journaux les plus radicaux du régime iranien, mais il est évident que ce régime, dont je rappelle qu'il a opprimé depuis des décennies son peuple et l'a réprimé dans le sang il y a quelques semaines au début de l'année, n'a à notre égard aucune intention bienveillante. D'ailleurs, nous avons l'année dernière encore appliqué à ce régime des sanctions extrêmement lourdes. Nous l'avons inscrit sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne et il va de soi qu'il n'y aura aucune levée de sanctions sur le régime iranien tant qu'il n'aura pas renoncé à son programme nucléaire, renoncé à son projet révolutionnaire qui déstabilise sa région, renoncer à son programme de missiles balistiques dont certains pourraient un jour être en capacité de viser l'Europe, et tant qu'il n'aura pas rendu aux Iraniens la liberté de construire leur propre avenir.
Coalition internationale pour l'Ukraine, on va y venir, pour le Liban également ?
Nous y sommes prêts, à condition que les autorités libanaises le souhaitent.
Et ça n'est pas encore le cas, ils ne vous ont pas encore demandé d'agir ?
Un accord a été trouvé entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien. C'est historique. Ça permet d'envisager un cessez-le-feu durable, le désarmement du Hezbollah, mais aussi la restauration du monopole des armes entre les mains des autorités libanaises, du gouvernement libanais. Le gouvernement libanais aura besoin de soutien sous la forme d'une coalition. Vous savez que nous avons 700 militaires français au sein du contingent des casques bleus de la FINUL. Donc déjà sur place. Mais nous aurons aussi à mobiliser la communauté internationale en organisant à Paris une conférence de soutien à ces forces armées libanaises qui en ont besoin.
Il y a aujourd'hui une coalition à Paris qui est la coalition des volontaires autour de la question de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky arrive d'ailleurs à Paris aujourd'hui. L'Ukraine tient en échec l'armée russe. Voilà ce que vous affirmez. La France doit-elle aider encore plus l'Ukraine ?
Oui, et c'est tout l'objet de cette journée au cours de laquelle le président de la République accueillera près d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement participant à cette coalition qui continue de s'élargir puisque nous accueillons deux membres supplémentaires aujourd'hui, la Moldavie et la Macédoine du Nord, passant le nombre de pays impliqués de 35 à 37. Journée qui sera l'occasion d'avancer sur le travail de développement de capacités anti-aériennes pour l'Ukraine. Nous accueillerons au Quai d'Orsay 8 pays et des industriels qui vont travailler justement à la manière d'accélérer la constitution de capacités anti-balistiques, anti-aériennes pour l'Ukraine, mais qui sera aussi l'occasion de démontrer que cette coalition des volontaires, dont vous savez qu'elle a été constituée pour que la paix, une fois conclue, puisse être garantie grâce à des garanties de sécurité. De démontrer que ce travail est finalisé, d'annoncer que des exercices hors de l'Ukraine, mais se tiendront dans les prochains mois, pour que cette question-là, c'est-à-dire la dissuasion de toute nouvelle agression de l'Ukraine, ne soit en aucun cas un obstacle à la signature.
Jean-Noël Barrot, il y a déjà un paquet de sanctions européennes qui avait été prises contre la Russie. Il y aura d'ailleurs un nouveau paquet de sanctions qui sera adopté par l'Union européenne aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire encore plus ?
Aujourd'hui, en particulier, nous allons dénoncer plus publiquement une vaste campagne cyber au but de sabotage, mais aussi d'espionnage conduite par la Russie dans une dizaine de pays européens. Nous allons en décrire quels sont les mécanismes et les auteurs. Oh ben vous savez, ce sont des opérations qui visent des ministères, qui visent des entreprises, qui visent des opérateurs et qui ont pour objectif soit de capter de l'information, soit de saboter le fonctionnement, par exemple d'infrastructures ferroviaires comme ça a été le cas en Pologne. Ce que nous allons annoncer aujourd'hui, c'est que nous convoquerons l'ambassadeur de Russie en France dans les prochains jours, mais que nous allons également prendre des sanctions à l'encontre de 9 individus et de 4 entités responsables de cette campagne de cyber qui a été orchestrée par le FSB, le bureau de sécurité, le service de sécurité fédéral de la Russie.
Est-ce que la France a donc été directement visée ?
Elle a fait partie des pays visés, effectivement.
Des 10 pays visés ?
Absolument.
Est-ce que vous êtes inquiet là-dessus ? Est-ce que vous estimez qu'on a les moyens de répondre ?
De fait, on a la capacité de détecter ces attaques. On a considérablement renforcé nos défenses contre ces attaques cyber. Nous disposons, en matière de lutte contre cette agressivité ou ces agressions hybrides en provenance de la Russie, de l'un des dispositifs les plus aboutis en Europe et dans le monde, à la fois pour lutter contre les campagnes de désinformation qui pourraient parasiter, par exemple, les processus électoraux avec Viginum, qui a protéger les élections municipales, mais aussi en matière de lutte anti-cyber avec notre agence nationale, l'ANSSI, dont les compétences sont reconnues dans le monde entier.
Vous avez parlé aussi de la question de l'ingérence. Un mot parce que demain, Volodymyr Zelensky sera invité aussi au défilé militaire, un défilé XXL, une démonstration de force. La chroniqueuse de CNews et du journal du dimanche, Madame Xenia Fedorova, écrit « La question est simple, jusqu'où va-t-on entraîner la France dans cette guerre ? Si l'on veut que ce conflit devienne aussi le conflit de la France, alors qu'on le dise clairement aux Français, est-ce que, qu'est-ce que vous répondez à ces propos ?»
Oh, j'ai répondu, et à plusieurs reprises, c'est tout simplement la propagande du Kremlin qui tente de faire passer l'Ukraine pour l'agresseur, alors que l'Ukraine est évidemment l'agressée, même si la résistance ukrainienne tient en échec les armées russes, et essaye, tente désespérément de faire passer la France et d'autres pays européens pour des va-t-en-guerre. Alors que tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons, c'est la paix, et il suffirait que Vladimir Poutine mette fin à sa guerre d'agression coloniale et impérialiste pour que le continent retrouve
la paix. Je vous sens sur ce point particulièrement choqué qu'une propagandiste, puisque vous dites que c'est de la propagande, puisse s'exprimer sur les ondes françaises.
Je suis étonné qu'elle y soit invitée. Évidemment, nous vivons dans un état de droit où chacun est libre de dire ce qu'il pense. Et la question qui est posée, et l'ARCOM, le gendarme des médias, a été saisi sur cette question. C'est ce pourquoi une personnalité qui ne cache pas ses liens, en quelque sorte, avec la Russie de Vladimir Poutine, est invitée constamment dans les studios de radio ou sur les plateaux de télévision.
Jean-Noël Barrault et vous tous qui nous écoutez et qui nous regardez, je vous recommande en particulier l'entretien exceptionnel que Volodymyr Zelensky a accordé à Didier François, qui sera diffusé ce soir sur BFM TV. Un mot aussi, monsieur le ministre des Affaires étrangères, sur cette femme française portée disparue en Espagne dans le cadre de ces incendies. En savez-vous plus ?
Nous avons exprimé notre très vive émotion d'abord devant le bilan tragique, meurtrier de ces incendies en Espagne. Le travail d'identification du corps de cette Française disparue est en cours pour confirmer ou non son décès. Et nos services sur place, consulaires et diplomatiques, sont en lien à la fois avec ses proches, auxquels je dis tout mon soutien, et avec les autorités espagnoles.
Au moment où l'on se parle, il n'y a pas d'autres Français ou Françaises qui soient portés disparus ?
Non.
Jean-Noël Barrault, la Coupe du Monde, évidemment, ça nous réjouit ici, mais on est assez sidéré par les injures racistes à l'encontre de l'équipe de France. Il y a eu bien sûr la sénatrice paraguayenne, et puis il y a l'ancien premier ministre conservateur espagnol Mariano Rajoy, qui dit de l'équipe de France que c'est une équipe sans Français. Comment vous réagissez ?
Voilà des propos qui sont pathétiques. Une bonne fois pour toutes, la France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation au contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux. C'est une équipe exceptionnelle qui montre le visage, le meilleur visage de la France, celui d'un pays qui est conquérant, qui est audacieux, auquel rien ni personne ne résiste. Et je me réjouis que cette équipe renvoie au monde une si belle image de notre pays. Et je me réjouis aussi de voir toutes les Françaises et tous les Français, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau, quel que soit le lieu où ils habitent, leur âge, soudés derrière cette équipe qui les fait rêver.
Et ça vous a surpris ? C'est-à-dire que je trouve que on n'imaginait peut-être pas.
Je suis toujours surpris par la bêtise, la médiocrité et le racisme.
Je précise que le premier ministre actuel espagnol, Pedro Sanchez, a lui aussi condamné évidemment les propos de son prédécesseur. Il dit « France, on se retrouve en demi-finale, que le meilleur gagne et que le racisme perde ».
Oui, le premier ministre a très bien répondu, mais je pense que celui qui apportera la meilleure des réponses, ou ceux qui apporteront la meilleure des réponses, ce seront les joueurs de l'équipe de France, quand ils emporteront haut la main cette demi-finale.
Merci beaucoup, monsieur le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères. Un mot encore quand même sur ce défilé XXL demain, fallait-il que la France fasse cette démonstration de force ? Est-ce le signe que l'on se sent menacé ?
Non, c'est pas le signe d'une démonstration de force, c'est un réveil stratégique de l'Europe qui prend en charge sa propre sécurité parce qu'elle a une intention.
De l'Europe ou de la France ?
De l'Europe. sous l'impulsion de la France, puisqu'elle a une intention, c'est de préserver la paix sur le continent européen.
Merci beaucoup Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci d'avoir répondu à mes questions sur RMC et BFM TV. Dans un instant sur RMC, le choix de la rédaction. 10 ans après les attentats de Nice, comment les victimes arrivent à se reconstruire? Nous avons pu les rencontrer, leurs témoignages, ils sont très forts et vous les entendrez. Puis toutes les infos Coupe du Monde avant la demi-finale France-Espagne.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h49 et vous êtes bien sur RMC, le mondial d'Antoine avec Antoine Salva. Bonjour Antoine.
Bonjour Apolline.
Dans un instant, vous allez nous donner toutes les dernières infos de la Coupe du Monde avant la demi-finale des Bleus demain. Mais d'abord, c'est l'heure du choix de la rédaction et c'est avec vous Inès Zegloul. Bonjour Inès.
Bonjour.
Les commémorations pour les 10 ans de l'attentat de Nice ont débuté hier, le 14 juillet 2016. Un terroriste fonçait à bord d'un camion sur la foule présente sur la promenade des Anglais. 86 morts, dont 15 enfants, des centaines de blessés, des milliers de témoins. Inès, vous avez rencontré ces victimes qui sont évidemment toujours traumatisées.
Et à quelques minutes à pied de la promenade des Anglais, Cécile me donne rendez-vous dans le cabinet de Brigitte, sa psy. C'est ici qu'elle a passé tant d'heures allongées sur ce sofa matelassé à tenter de disséquer les images, les sons qui lui restent de ce soir-là.
On allait tous voir le feu d'artifice de Nice. Non, moi j'étais avec mon mari et mes deux enfants qui étaient bébés. Et j'ai juste entendu des gens crier. Donc moi je me suis retournée, j'ai vu cet énorme camion. Et là, je me suis vue mourir en fait. Donc je me suis dit à moi-même, si moi je meurs, mes enfants eux vivront. J'ai pris la poussette double de mes enfants et la seule issue qui était possible à ce moment-là, c'était de les jeter par-dessus la barrière de la promenade des Anglais, quitte à ce qu'ils se cassent une jambe. Le camion était à 40 mètres et faisait du 80 km/h, donc j'avais que 2 secondes pour réagir. Et à ce moment-là, je suis devenue quasiment aveugle. Consciemment, je n'ai vu aucune victime. Tout était noir autour.
Cécile, ses enfants, sa famille, ils s'en sortent finalement indemnes, du moins physiquement.
Et réfugiés chez eux, les heures passent, les jours passent, enfermés dans le noir, et puis les années filent, elle se sépare de son mari, et sombre parfois.
On dort pas, on a des cauchemars, je me suis mise à bégayer. Tout semble fonctionner normalement au quotidien, jusqu'à ce que tout d'un coup, un déclencheur fasse que on est complètement ramené à ça, comme si c'était hier. Un camion qui va trop vite dans la rue, je me fige. Mais non, en tout cas, je me vivais pas comme victime, je me vivais comme rescapée et très très chanceuse d'être entière, et surtout pour mes enfants.
Comme disait Cécile, beaucoup de personnes n'ont pas compris à quel point le traumatisme était puissant. Brigitte Juillère-Bibou, je suis psychanalyste à Nice.
On est 10 ans plus tard, est-ce que vous avez des patients qui vous en parlent encore?
On a eu des patients qui sont venus pour traiter le traumatisme. Des médecins, des pompiers aussi. Mais j'ai eu aussi des personnes qui sont venues pour autre chose et qui relatent cet épisode. Ce sont des chocs tels qui ne se résorbent jamais totalement.
Qu'est-ce qui leur permet de tenir?
Eh bien, le rire de mes enfants, répond Cécile du tac au tac. Elle suit encore une thérapie, des séances d'hypnose. D'autres trouvent un peu de quiétude, de joie, attablés ensemble à une terrasse de café. Thierry, lui, a perdu sa fille de 12 ans dans l'attentat. Célia, elle, a perdu sa mère. Ils sont amis dans le drame et ils se rendent visite souvent.
C'est au 6e, hein, ouais, tu t'en souviens?
On se voit beaucoup parce qu'on boit des coups, il y en a plein de fois qu'on commande.
Entre nous, on sait, on en rit, on sait aussi ce qu'on subit en trame de fond, quoi. Donc,
Tu veux quoi, de l'eau?
De l'eau. Résilience, reconstruction, c'est des mots des autres gens, des autres. Nous, on se reconnaît pas, on les utilise pas.
Cette question-là de est-ce que vous vous reconstruisez, c'est la question qu'on vous pose le plus?
Sans arrêt, tout le temps.
Comment ça va?
Comment allez-vous?
Comment allez-vous? Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Ils sont fatigués après 10 ans de combat, 10 ans de procès, de désintérêt des institutions, disent-ils, d'injonction à la résilience. Et puis il y a aussi l'appréhension au moment de commémorer.
Ambivalente avec ce que j'en pense, un devoir de mémoire, mais on n'est pas dupes en fait. On voit bien les chaises des élus devant réservées, les chaises des victimes plus loin derrière. Je regarde ça avec un petit peu d'amertume.
Et puis difficile de faire mémoire lorsqu'on ne connaît pas toute la vérité. Les victimes attendent toujours des réponses sur la sécurisation de ce 14 juillet 2016 à Nice. C'était il y a 10 ans.
Merci Inès Zegloul, reporter RMC. Très fort évidemment, et les commémorations qui auront lieu demain soir à Nice. On va parler Coupe du Monde, c'est le début des demi-finales et c'est demain.
RMC, le mondial d'Antoine.
Antoine Salva, journaliste RMC Sport, vous êtes toujours avec nous. On commence avec ces dernières infos qui concernent l'équipe de France.
Et oui, Apolline, les Bleus sont arrivés à Dallas cette nuit et pris leur quartier au Texas avant la demi-finale tant attendue demain soir face à l'Espagne.
Côté compo, dernière nouvelle, Aurélien Tchouaméni, absent lors des deux derniers matchs, devrait bien retrouver sa place au milieu dans le 11 de Deschamps, alors que Désiré Doué tient la corde pour occuper le flanc gauche de l'attaque. Des Bleus méchants, comme il le clame. Alors pourquoi ce terme ? Explication du défenseur Ibrahima Konaté.
On a la capacité à switcher, par exemple, entre la veille ou un entraînement, ça va être taquin, tout le monde va rigoler, tout en étant extrêmement sérieux. Lorsqu'on arrive avant le match ou même sur le chemin du match dans le bus, on voit que chaque joueur est dans un état d'esprit de gagne.
Premier qualifié dans le dernier carré depuis jeudi soir et leur succès 2-0 contre le Maroc, nos Français se sont bien occupés avant de rejoindre le Texas dans leur camp de base, à l'abri des regards indiscrets. Jean-Philippe Mateta prend soin de son genou quand d'autres comme Lucas Digne et Maxence Lacroix tentent de deviner le programme de l'entraînement du jour.
Aujourd'hui, je vois bien deux petits taureaux avec tout le monde et après des avant-jeux pour ceux qui ont joué et du jeu pour ceux qui ont
pas joué.
Je pense que c'est faisable.
Je vais faire un peu de cardio. On fait partie des joueurs qui n'ont pas beaucoup de minutes pour être prêts quand on fait appel à nous.
Et Antoine, depuis le début du mondial, on a droit à ce type de séquence assez sympa au cœur de la vie des Bleus. Ça cartonne sur les réseaux sociaux.
Et oui, l'extrait que vous venez d'entendre provient de vidéos tournées par Guillaume Bigot qui suit au plus près l'équipe de France depuis 2004. Ainsi, on peut découvrir le quotidien des Bleus. Entraînement, déplacement, moment de partage. Le Parisien, aujourd'hui en France d'hier, nous apprend que ces vidéos cumulent plusieurs dizaines de millions de vues sur les plateformes. Bien aidé, il faut le dire, par une génération de joueurs souriants, intelligents et surtout qui gagnent. Dixit Raphaël Raymond, le chef de presse de la sélection.
Confiance, sérénité, tous les voyants semblent donc au vert pour toute l'équipe de Kylian Mbappé.
Tout à fait. Alors, non seulement les Français bénéficient d'un jour de récupération de plus que les Espagnols, ils sont aussi les favoris désignés pour soulever le trophée. C'est le très sérieux statisticien Opta qui le dit. La France a plus de 34% de chances d'être sacrée, quand l'Espagne se situe à près de 23%, l'Angleterre à 22% et l'Argentine à 20,5%.
France-Espagne, c'est donc demain soir, ce week-end. De l'autre côté des Pyrénées, un homme politique a lancé les hostilités.
Eh oui, après les propos racistes d'une sénatrice paraguayenne, ceux d'un ancien Premier ministre espagnol, dans un journal ibérique, Mariano Rajoy s'est félicité de la qualification de son pays avant d'évoquer l'équipe de France en ces termes. Son effectif est de très haut niveau et ce, sans français. L'ex-chef de file de la droite conservatrice vise donc les origines étrangères de nos bleus. L'ambassade de France en Espagne s'est empressée de réagir, affirmant que seuls 3 des 26 joueurs sélectionnés ne sont pas nés en France, tandis que le président de la fédération, Philippe Diallo, a qualifié des propos au relent de racisme intolérable.
Demain, nous serons le 14 juillet. C'est une journée évidemment spéciale.
À plus d'un titre. La fête nationale, ses festivités, ses feux d'artifice et son défilé militaire. Une parade à laquelle Emmanuel Macron assistera évidemment. Si le président de la République se rendra à New York en cas de finale, il ne sera en principe pas à Dallas demain, contrairement aux plus de 3000 supporters tricolores. Bon, à moins que Gianni Infantino lui prête ses super pouvoirs. Et puis, autre actualité qui vient se télescoper avec le match demain, le triste anniversaire des 10 ans de l'attentat de Nice qui a fait 86 victimes sur la promenade des Anglais. Éric Ciotti, le maire de la ville, a demandé à la FIFA d'organiser une minute de silence avant la rencontre. Une requête pour l'heure sans réponse.
Et on en parlait évidemment à l'instant aussi avec Inès Zegloug. Antoine, après plus d'un mois de compétition, cette Coupe du Monde, elle nous offre la crème de la crème au stade des demi-finales. Hein.
France-Espagne et Angleterre-Argentine, c'est un carré d'as.
Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir vos amis les 4 fantastiques.
Et pour la première fois, le top 4 du classement FIFA compose le dernier carré du mondial. Dans un ordre différent, certes, ces nations étaient dans le top 4 au moment du tirage au sort fin 2025. Elles le sont encore aujourd'hui, à ceci près que les Bleus dominent désormais ce classement. Et puis, ces 4 sélections ont aussi la particularité d'avoir toutes déjà remporté au moins une fois la Coupe du Monde.
Merci Antoine Salva, journaliste RMC Sport. France-Espagne, demi-finale de la Coupe du Monde. C'est en direct et en intégralité sur RMC, bien sûr. Match à 21h, l'avant-match dès 18h et ce sera demain. Dans un instant, les GG, quel est le programme, Olivier ?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les GG, dans quelques minutes maintenant, pour débattre de l'actualité avec autour de la table aujourd'hui le professeur de philo Jean-Loup Bonamy, notre avocat Charles Consigny, la prof de français Fatima Edbounou. On va revenir bien sûr sur ces incendies aux portes de Paris. Effrayant, est-ce que vous avez été évacué ? Appelez-nous au 3216 pour témoigner. L'actualité, le débat, les grandes gueules arrivent.